La chose que je demande, c'est le silence, hein, mais je suis un peu pinailleur, parce que je capte tous les... Même si vous parlez à voix basse entre vous, ça me fatigue mentalement. Rien d'y penser, je le capte. Hein. Donc, je demande vraiment que vous soyez attentifs, parce que c'est un exercice difficile, par sa nature. Mon frère l'a éprouvé quand il est venu en décembre. Et ça demande du volume de voix, de la concentration. Et ce soir, le sujet... Alors, je dis aussi pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est pas toujours aussi difficile. Ce soir, c'est un petit peu difficile. Mais je crois que je vais aller aborder ce sujet fondamental. Nous aurons donc un café-caté sur donc le sujet « La raison naturelle peut-elle connaître un principe transcendant du monde ?» C'est ce que nous allons voir ce soir. Et puis, en mars, je crois que je ferai un thème plus général que ce qui avait été prévu, parce que je n'ai plus qu'un seul café-caté pour moi, enfin, cette année du moins, bien sûr. Donc, ce sera du genre « Pourquoi l'athéisme ?» Oui, parce que sinon ça aurait demandé trop de recherches que j'ai pas le temps de faire maintenant. Et puis ensuite, le Père Ivoire fera trois conférences dans la ligne de celle-là, sur la création, l'homme, etc. Mais je ne vous abandonne pas, et l'année prochaine, on verra si on travaille en alternance. Et donc, faites-lui bon accueil, il viendra le mois prochain pour se mettre un peu dans le bain de cet exercice difficile. Alors, voilà, il y a trois parties dans mon papier. J'ai mis très longtemps à rédiger, j'ai profité de ma grille pour le perfectionner. Et c'est un sujet qui est délicat, qui, pour être traité de façon tout à fait rigoureuse, demande d'assez long développement, une mise en place. C'est une partie de la métaphysique, de la démonstration du principe transcendant du monde, et pas n'importe quelle partie de la métaphysique, c'est vers la fin de la métaphysique, on aborde l'étude de l'être dans ses causes. Y a-t-il une cause éminente et transcendante de l'être, de l'existence? Et oui, et bon, et alors ça demande une certaine démarche, qui suppose donc d'avoir déjà un certain entraînement en métaphysique, et donc par conséquent, dans les disciplines qui précèdent la métaphysique, à savoir les arts et les sciences ordinaires, la physique ou des choses comme ça, la morale, l'éthique, vont d'avoir un certain assouplissement et donc une petite base culturelle qui habituellement, malheureusement aujourd'hui, fait défaut, ce qui est un gros problème pour la transmission de la foi. C'est que la base culturelle qui était le terreau sur lequel fleurissait la métaphysique et la théologie est aujourd'hui extrêmement faible et elle est remplacée par de longues heures sur Internet et des échanges de MSN et d'autres conneries du même acabit. Et donc les gens ne sont pas très fortiches et on essaye d'arroser. Donc s'il y a des philosophes parmi vous, je m'excuse de ce qui leur paraîtra peut-être le côté un peu rapide ou élémentaire du propos. D'autres au contraire trouvent que c'est très difficile, peut-être, je ne sais pas. Je vais plutôt vous donner envie d'approfondir. Donc j'ai mis une petite bibliographie à la fin du texte, avec des renvois donc au texte du magistère, et puis les deux lieux principaux où saint Thomas, je dis principaux parce qu'il l'a abordé dans ses commentaires scripturaires, par exemple, d'autres lieux, en particulier le commentaire du Credo et le Compendium de théologie, de façon très courte et très abordable. Mais les deux grands lieux de la preuve, ce qu'on est convenu d'appeler la preuve de l'existence de Dieu, c'est la Somme contre les gentils, donc j'ai donné référence avec les éléments français, et la Somme de théologie, là où elle est extrêmement condensée, et elle a atteint une forme devenue classique et qui donne lieu à beaucoup de littérature. Donc après, je vous ai mis des livres un peu plus pour les philosophes, un peu le livre de Gaborio, qui est un livre écrit dans les années 60, donc avec un très bon esprit. J'ai un problème là-bas, non? Ça va? Bon. Alors, il a été écrit avec un très bon esprit dans les années 60, et bon, c'est plutôt disons, pour une réflexion philosophique, il est tout en français, il est abordable. Et après, j'ai mis deux livres beaucoup plus, disons, qui sont presque des prolégomènes ou des propédeutiques. Le livre de Brut Berger, un de ses derniers livres, qui commence par un pseudo-discours de Solzhenitsyn à Harvard, un très beau texte inventé par Brut Berger, sur ce thème du rapport de la science et de la preuve de l'existence de Dieu. Et puis un très beau livre de Pierre Marais Bonnet, qui est un métaphysicien dominicain suisse que j'ai eu l'honneur de connaître, Dieu contemplé dans le miroir des choses, et qui est très bref et qui met les choses un peu en musique avec l'aide de poètes, en particulier un poète qu'il aime beaucoup, Ramu, un poète suisse, et d'autres plus classiques, plus connus de nous les Français. Et enfin, donc j'ai mis un de mes articles qui est une réflexion sur ce que saint Thomas lui-même a pensé de la possibilité, des difficultés, des inconvénients de la preuve de Dieu, on va en dire un mot, donc qui est paru dans notre revue. Donc vous trouverez l'enseignement sur la revue sur notre site également. Et puis j'ai mis pour finir un livre amusant de Paul Clavier, donc qui est un professeur de philosophie à l'école normale supérieure, Ulm, hein, donc c'est une grosse fête. Et alors il a fait un séminaire de théologie naturelle. Théologie naturelle, c'est la partie de la métaphysique qui traite des causes de l'être. Donc qui aborde ce fameux problème de la démonstration de l'existence de Dieu et les propriétés qu'on peut, en raison naturelle, attribuer à connaître de ce premier principe du monde. Donc c'est amusant parce que c'est un dialogue entre athée et théo, Donc je pense que ça doit venir de dialogue qu'il a eu avec ses collègues de Newf, de l'Ulm. Il y a les Talas et les pas Talas, ceux qui vont à la messe, ceux qui vont pas. Alors lui, il est plutôt Talas, c'est qu'il va à la messe. Et en plus, il a la pêche, donc il a fait ce livre et c'est assez rigoureux. Donc voilà, ça c'est la bibliographie, c'est pour vous donner envie. Et vous allez le voir, enfin pour ceux qui connaissent ce sujet, il n'y a pas grand monde, mais quand même quelques-uns, vous avez quelques éléments un peu dans le brouillard ou déjà quelques sources. Je vais beaucoup insister sur la méthodologie et les alentours de la preuve. Et à la fin, je l'esquisserai pour donner envie d'y aller voir et peut-être pour faire sentir comment peut-être elle est vraie. Parce que vous voyez, un des gros trucs qu'on nous dit, alors qu'en fait, je vais commencer à gueuler tout de suite, c'est la preuve de Dieu n'a jamais converti personne. Eh bien, c'est faux. C'est vrai, en gros, si vous voulez, la conversion vient de la grâce. C'est pas la démonstration de l'existence de Dieu qui est la cause totale et adéquate de la conversion. Mais moi, je suis un des exemples de personnes qui a été impressionnée par le fait que des gens normaux, catholiques et formés, philosophes, disaient, en donnant les grands, la preuve d'une façon non scientifique, disons, celle qu'on va aussi peut-être développer ici, en montrant ces quelques points de difficulté, mais comme sa vigueur, disaient, la raison naturelle peut atteindre une réalité qu'on va voir que les religions ont nommé Dieu, mais elle l'atteint comme cause du monde, et avec certitude. Et donc des gens normaux assis dans leur basket et capables de faire quelque chose qui dit ça, ça a été un élément décisif du moment où j'ai retrouvé la foi. Et puis j'ai eu un autre exemple récemment, j'ai reçu un courrier électronique, un courriel, comme disent les gens du Québec, j'ai reçu un courriel d'un Brésilien qui cherche sa voie un peu, et qui m'a raconté son parcours. Et alors il me dit un jour, je ne sais pas, un pratiquant, ce sera une certaine croyante, et il est tombé sur la somme de théologie en brésilien, en portugais, pardon, enfin, c'est presque pareil. Et alors, et il est tombé sur la question 2. Il dit, j'ai fondu en larmes, et j'ai compris la grandeur de la vérité. La question 2 de la somme de théologie, c'est justement ce qu'on va dire ce soir, le moyen qu'a la raison naturelle d'aller vers le principe premier du monde. Il a fondu en larmes et ça a été sa conversion, de telle sorte qu'il a commencé à pratiquer, il a fait sa première communion, etc. Donc voilà au moins un gars avec lui qui a été converti par la preuve de l'existence de Dieu. Donc on arrête de nous bassiner avec ce truc-là. C'est vrai que c'est de l'ordre de la raison. La conversion, ça relève de la foi et d'un certain nombre de préparations. Mais la raison et la foi sont très liées. C'est au fond le but de mon existence, de l'illustrer. C'est celle de quelques autres personnes. Alors d'abord les trois écueils. Que quand vous parlez de... moi, je pense que j'ai comme moi de maîtrise un peu sur ce thème-là. Alors, on est sur quoi vous faites. Hein, à l'époque, c'était la maîtrise. Encore, c'était pas très vieux, pourquoi. Et sur l'existence de Dieu. Alors, en métaphysique, hein, des gros yeux comme ça s'ouvrent, mais je croyais que ça relèverait que de la foi. Donc, il y a trois écueils qui se présentent tout de suite à celui qui veut essayer d'argumenter avec la raison sur cette preuve, ce chemin rationnel de l'intelligence vers le principe du monde, c'est de dire c'est inaccessible en dehors de la foi, ou bien de dire c'est évident, ou bien de dire c'est impossible. Vous voyez, ces trois objections que je vous ai mises ici, avec le texte même de saint Thomas, on vous montre aussi que saint Thomas n'est pas non plus totalement inaccessible, mais il faut un guide pour nous y conduire, mais bon, il y a quand même, on peut comprendre ce qu'il dit. Alors, la première objection, c'est, j'ai appelé ça, l'humiliation pieuse de la raison, c'est le fidéisme. Alors le fidéisme, c'est très répandu. Et je pense, peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est la tente, me semble-t-il, dans beaucoup de milieux catholiques et chrétiens, c'est la grande tentation, hein, la raison et tout ça, c'est compliqué, la science, n'en parlons pas, pour certaines personnes qui n'aiment pas la science, je ne sais pas pourquoi, dans les milieux un peu fondamentalistes ou pseudo-tradis, mais par contre, la foi nous ouvre des horizons extraordinaires, c'est vrai, bon, et c'est la foi sur laquelle il faut s'appuyer, sous-entendu, elle toute seule. Alors, ce danger du fidéisme est très grave, parce que là, contre lui, saint Thomas est extrêmement... Il dit que c'est une erreur manifeste de dire que Dieu, on va voir, disons, le principe premier du monde, ne peut pas être atteint par la raison naturelle. C'est une erreur manifeste et il ne fait aucun cadeau à cette position-là alors qu'il prend des nuances pour les deux autres. C'est une erreur manifeste. Donc je vous ai mis le texte de la réponse de saint Thomas dans lequel il explique bien que certes l'existence de Dieu et d'autres vérités qui concernent Dieu, des vérités métaphysiques, sont des vérités que la raison naturelle peut connaître, ça c'est important. Et il cite à l'appui un texte de l'apôtre, donc l'apôtre c'est saint Paul, que je vous ai mis, Romains 1, 19, 20, c'est le grand texte de référence sur lequel s'appuie saint Thomas et la tradition de l'Église pour dire la raison naturelle peut arriver à prouver l'existence de celui qui a fait le monde. Bon. En effet, ces choses-là ne sont pas des articles de foi, mais des vérités préliminaires qui nous y acheminent. Préliminaires, disons, selon leur nature, pas forcément dans l'ordre, ce soir on les étudie peut-être quelquefois après avoir eu la foi, bien sûr, mais de soi, c'est des choses qui sont des fondements, des bases si Dieu n'existe pas, eh bien, le dit dans la somme contre les gentils, le fondement même de la théologie disparaît. C'est pourquoi, dans les deux sommes théologiques qu'il a fait, il étudie dès le début, est-ce que la raison naturelle peut arriver à s'assurer de l'existence de ce sujet de la théologie, qui est, qu'on appelle les philosophes, et les théologiens appellent Dieu. Et il répond, en montrant que c'est possible, et après, en faisant une démonstration, qui est en fait la seule véritable, à mon avis, la démonstration métaphysique que nous allons essayer d'esquisser tout à l'heure. En effet, la foi présuppose la connaissance naturelle comme la grâce suppose la nature et la perfection le perfectif. C'est-à-dire, si, vous voyez, l'homme n'a pas une raison semblable à celle de Dieu, et si par cette raison semblable à celle de Dieu, il ne peut pas s'orienter avec certitude vers la source naturelle de l'être, et bien la foi c'est fini. La foi c'est du baratin, c'est du fidéisme, c'est-à-dire c'est un saut dans l'absurde, hein, selon le terme employé par un existentialiste moderne, Kierkegaard, je crois, parce que c'est absurde, parce qu'il reprenait l'origine, semble-t-il, dans un autre contexte, enfin, c'est très mauvais ce genre de question. Vous voyez, c'est quelque chose qui est uniquement du domaine de la foi, et la raison est totalement impuissante dans ce domaine-là. Alors, c'est une humiliation pieuse, mais d'autant plus dangereuse de la raison. Parce que la raison est une grande chose, et si vous l'abaissez, vous démolissez la foi. Et en fait, si vous, on a montré, moi je m'appuie beaucoup sur le travail de mon père spirituel, le père Gérard Delaurier, qui a fait dans les années 65 un grand travail sur la preuve de l'existence de Dieu, demandé un peu par les autorités aussi, qui se rendaient compte qu'elle était de plus en plus mise en doute dans les milieux catholiques, qui a amené la crise que nous voyons, dans lequel il montre très bien au début, refuser la possibilité naturelle d'atteindre avec notre raison Dieu, c'est éliminer la foi et le dogme. Alors ça, c'est un truc qui est pourtant quasiment le fond commun de commerce de la plupart des modernos et des semi-modernos, qui sont mes amis préférés. Je tape sur eux parce qu'ils sont là. Un dominicain tape sur l'hérétique qui est sous sa main. Il aime bien, il peut prendre le thé avec lui, mais ils sont deux. Et quand il n'y en a plus, il n'y a plus d'ambiance. Donc je tape sur le moderno de service. Et j'espère qu'il est vexé. Alors ça, c'est le fidéisme, il faut faire très attention à ça. Parce que nous sommes, c'est une solution de paresse, si vous voulez. J'ai pas besoin de tout ça, j'ai la foi du charbonnier. Est-ce que vous êtes charbonnier? Non, et bien vous allez vous casser la gueule. Si vous êtes docteur en maths et que vous avez la foi du charbonnier, tôt ou tard, vous cassez la gueule. Combien d'exemples on en connaît, je vous assure. Hein. Moi, je sens ça, je le sens. Toi, moi. Moi, je sens, j'ai pas besoin. Bon. Alors, deuxièmement, l'ontologisme. Alors là, il est un peu plus gentil. Ça, c'est un peu dans la tradition, plus, un peu plus. Mais c'est aussi dangereux. C'est une confusion de la pensée et du réel qui exagère les choses, vous voyez. C'est évident. L'existence de Dieu est évidente parce que la proposition Dieu est. Dieu est l'être qui a toutes les perfections, l'existence d'une perfection, donc Dieu existe. J'ai l'idée de 5 millions d'euros dont j'ai besoin prochainement. J'aurai bientôt besoin de 5 millions d'euros. Mais pas tout de suite. Mais j'ai cette idée-là, qu'il y a 5 millions d'euros dans ma poche, c'est marrant, ils n'y sont pas. Mais eux, ils disent, j'ai l'idée de Dieu dans ma tête, donc Dieu existe. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de besoin d'assister, mais malheureusement, c'est une chose qui a eu un impact énorme à l'époque de Descartes, de Leibniz et d'autres. Et c'est en face de ça que se trouvaient les Lumières. Face à une défense de la foi et de la raison qui était soit fidéiste, soit ontologiste. Et pendant longtemps dans les séminaires, je crois 1832, on a enseigné une philosophie ontologiste, avec l'admiration pour les gens qui disaient la preuve de Dieu, c'est que la perfection ne peut pas le faire, etc. C'est ça dans mon idée. Donc, c'est une confusion de la pensée et du réel. La pensée atteint le réel, la pensée relative au réel, mais les catégories de la pensée ne sont pas celles du réel. Elles sont les idées, les jugements. Ce sont des êtres de raison fondés dans le réel qui nous permettent de penser et ensuite de parler sur le réel. Mais ce sont des réalités distinctes. Et donc, il ne faut pas conclure de façon univoque des choses qui sont dans mon esprit, des propositions que je peux mettre dans mon esprit, à la réalité extramentale. Sinon, on arrive... Hein. Alors ça, c'est assez dangereux parce que, vous voyez, dire l'existence de Dieu est évidente, c'est un peu une tentation aussi de l'islam. Si l'existence de Dieu est évidente, tous les athées sont de mauvaise foi. Et donc, on leur rentre dans le chou. Hey, Dieu existe, c'est évident, c'est plus évident que le... C'est pas évident. Saint Thomas n'aime pas du tout cette idée que l'existence de Dieu serait évidente. Elle n'est pas évidente, elle est prouvable, si vous voulez, dans le sens qu'on va dire, pas le sens des sciences modernes, elle est atteignable par la pensée, par la raison, de façon certaine, mais elle n'est pas évidente, elle demande une démarche de la raison. Voilà. Alors ensuite, le rationalisme. Pas le rationalisme, j'ai intitulé ça « Quand la pensée ignore sa profondeur ». Alors le rationalisme, c'est un peu un parti pris, qui expliquerait qu'on peut, d'une certaine façon, pas dépasser le sensible. Et ce parti pris s'appuie aussi sur une idée que Dieu est trop grand pour nous. là aussi, il y a une fausse. Il y a une sous-évaluation de l'homme. On dit la raison de l'homme ne pourra jamais former une proposition à propos de Dieu parce que Dieu est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on retrouve dans la version vulgaire. Mahomet, Bouddha, Jésus, Dieu est bien au-dessus de tous ces petits détails. Oui. Ça, c'est extrêmement répandu. Je parlais récemment avec un catholique qui est quand même catholique, mais qui connaît très bien le bouddhisme, qui a été longtemps en Extrême-Orient. Et je lui disais, au fond, pour le moine bouddhiste qui médite, le but est de supprimer la pensée. Alors, il l'a pas nié, il m'a nuancé, mais avec des termes techniques chinois, mais il faut supprimer. C'est tout à fait contraire de la méditation chrétienne. Parce que pour nous, l'être est une perfection, et Dieu a la perfection de l'être, y compris la perfection d'être une personne. Donc dans la méditation, il faut faire taire les passions, les distractions dans la mesure possible, mais pas avec quelque chose très grand, mais on concentre le cœur sur une réalité personnelle. Tandis que dans leur répétant Aum Mani Padme Hum et les autres mantras, on cherche à se vider soi-même et à se vider aussi de l'illusion que nous existons. Donc parce qu'on dit Dieu ne peut pas être exprimé, ce qui est un peu vrai, adéquatement, ça c'est vrai. Mais il ne peut pas être même atteint par un jugement ou une pensée humaine. Alors là, j'ai mis ici l'objection, la réponse de saint Thomas. L'objection, c'est qu'il y a Dieu est trop grand, il est infini. Donc nous, par rapport aux œuvres de Dieu qui sont des choses finies, on n'arrivera jamais à connaître, à prouver quelque chose au sujet de Dieu parce qu'il n'y a pas de proportion entre le fini et l'infini. Les créatures sont finies, Dieu est infini, donc je ne peux rien dire sur Dieu. Alors il faut nuancer dans la réponse. Hein. Saint Thomas montre bien dans la réponse qu'en effet, les créatures sont des effets de Dieu, c'est Dieu qui les a faites, mais elles sont disproportionnées alors qu'elles sont très en dessous de Dieu. Et donc on n'arrivera pas, par ces créatures, à connaître l'essence de Dieu. Quand, si vraiment vous étudiez la géométrie, vous comprenez ce que sont des droites, etc., et des triangles, et que vous réfléchissez, que vous vous appelez un des génies des mathématiques ou un gars docile qui écoute la démonstration du prof, eh bien, vous avez l'évidence de la sortie de l'essence du triangle, de sa propriété, que la somme des angles est égale à deux droites. C'est une évidence, ça sort de vous voyez, ça, et c'est parce que ce par quoi vous remontez à ça, c'est proportionné. Vous remontez, vous allez à la propriété par l'essence du triangle, qui est parfaitement proportionnée à sa propriété, qui en sort. Et donc, vous concluez, il y a un triangle, donc il y a un ensemble de choses qui font 180 degrés, voilà. Et ça, vous pouvez le démontrer, mais de façon homogène. Vous voyez, vous restez au même niveau. Tandis que là, nous partons des créatures qui sont très en dessous de Dieu, donc on n'arrivera pas à connaître l'essence de Dieu, mais on peut connaître le fait qu'il existe. Et même certaines de ses conditions. Parce qu'on ne peut pas connaître l'existence de quelque chose sans avoir quelques idées sur ses conditions. Donc on va voir un peu quel est. C'est ça que vous reteniez ce soir. C'est plutôt, disons, le statut de la preuve et son épistémologie. Qu'est-ce que je prouve lorsque j'arrive à la conclusion finale, Dieu est. Bien, je prouve, non pas l'essence de Dieu, parce que ça, il faudrait que je le voie face à face, ça sera dans la vision béatifique, mais je prouve avec certitude que le monde existe, exige par lui-même la réalité d'un non-monde réel. Et ce non-monde réel, les religions l'appellent Dieu. C'est ce qu'on appelle une cause, c'est un principe. Hein. Je prouve de façon tout à fait rigoureuse quelque chose au sujet de cet être-là, eh bien, c'est qu'il a été la cause de certains effets. Et donc, il faut être très attentif parce que c'est là-dessus que se jouent, je crois, les trois quarts des difficultés sur l'épreuve de Dieu. On tâchera d'évoquer ça au mois de mars si on parle de l'athéisme. Je crois que la plupart des difficultés de l'athéisme viennent du fait que les gens refusent, si vous voulez, l'humilité de notre connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Dieu est, on va le voir, quelque chose d'assez modeste. Ça veut dire, au fond, une vérité qui concerne le monde, finalement, et non pas une contemplation faciale de l'essence de Dieu. Mais c'est une vérité tout à fait certaine. Il ne faut pas refuser, si vous voulez, les choses, parce que la conclusion nous met dans un état de malaise. Vous allez voir, la preuve de Dieu, c'est à la fois exaltant, et c'est troublant parce qu'on ne voit pas le résultat. On sait qu'il y a un résultat, on prouve qu'il existe, mais on ne le voit pas face à face. Au ciel, on le verra. Alors, c'est pour ça que saint Thomas est assez gentil pour le numéro 2, l'ontologisme. Hein, il tape dessus, mais il dit, tel qu'il a été, par exemple, soutenu, ou semble-t-il, par saint Anselme, Dieu est une proposition évidente par soi parce que l'être appartient par essence à Dieu. Il dit oui, ça c'est vrai, pour celui en soi, pour celui qui arrive à voir en soi l'essence de Dieu, eh bien sont là les bienheureux au ciel. Dieu lui-même, les anges et les bienheureux, il sera évident que Dieu existe nécessairement. Mais pour nous qui ne connaissons Dieu naturellement que dans ses effets, eh bien c'est pas une proposition qui est évidente pour nous. Elle est évidente en soi, c'est que le sujet, le prédicat, rentre, s'emboîte très très bien là-dedans, mais comme je ne vois pas l'essence profonde du sujet, Dieu, et là je ne peux pas la conclure. Je ne peux en faire qu'une démarche, une preuve, qui est en effet une conclusion, mais qui est une conclusion à partir des effets. Donc ça c'est la clé de la preuve de Dieu, c'est une démonstration à partir des effets. Donc c'est quelque chose d'un peu troublant, c'est quelque chose de certain, mais d'un peu déstabilisant. Vous voyez, c'est à la fois le plus haut acte de l'intelligence naturelle de l'homme, et Aristote pensait que le bonheur métaphysique était dans la contemplation, et la contemplation du plus haut intelligible qui est Dieu, donc montrait que Dieu est, et que Dieu possède un certain nombre de perfections qu'on va dire tout à l'heure. Donc ça, vous voyez, je crois qu'il faut être très attentif à ça, il y a une humilité dans la conclusion, la cause du monde, il existe un principe premier qui lui n'est pas dans les conditions du monde que nous constatons. Et il existe nécessairement. Mais qu'est-ce que c'est de lui? Uniquement qu'il est en relation, ou plutôt que le monde est en relation avec lui. Voilà ce que je connais. En fait, je ne le connais pas, si vous voulez, lui. Je marche vers lui de dos, si vous voulez. C'est très important. Parce que beaucoup de gens se troublent en disant, oui, mais Dieu, Dieu, mais alors vous supposez Dieu. Je ne suppose rien du tout. Vous allez voir, dans la démonstration, le mot Dieu, pour saint Thomas, il arrive à la fin. Bon. Alors, voilà. Donc, les trois obstacles, hein, le fidéisme, l'ontologisme, le rationalisme, qu'il faut... contre lesquels il faut se garder et qui renaissent chaque fois sous des formes différentes. Alors maintenant, la portée métaphysique de la raison humaine, ça c'est la clé. Pourquoi les preuves de Dieu, ou la preuve de Dieu plutôt, à mon avis, il faut dire là, sous ces cinq formes, est en crise actuellement, depuis déjà 60 ans à peu près? Parce qu'il y a un effondrement de la métaphysique. En fait, la mort de Dieu, on en parlera quand on parlera de Nietzsche un petit peu rapidement, elle suit la fin de la métaphysique, programmée par Descartes, sans s'en rendre compte, explicitement, au fond, par Kant. Donc à partir de ce moment-là, les penseurs sont tous dans la dépendance de Kant. Ils s'imaginent tous, ils sont bloqués par lui. Et Kant, et il a écrit un livre qui s'appelle Introduction au prolégomène à toute métaphysique future. Mais le prolégomène, c'est qu'en fait, il n'y a pas de débouché dans la métaphysique. La métaphysique est inatteignable. Et l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, qui sont des vérités que la raison naturelle atteint, en réalité, pour Kant, on les postule pour que la morale soit possible. Et donc, toute la morale kantienne, en fait, s'accroche, si vous voulez, à l'affirmation d'un postulat, mais c'est pas quelque chose que la raison naturelle atteint avec suavité, toutes les difficultés, mais suavité, comme dans la perspective traditionnelle. Et donc, ça se comprend que ça soit effondré deux siècles après, avec l'existentialisme, avec le refus de toute morale. Même la morale kantienne était en crise en mai 68. Parce que, une supposition nécessaire pour tout le reste, bah oui, mais est-ce qu'elle est vraie, cette supposition? Est-ce que vraiment mon âme est immortelle? Est-ce que Dieu existe? C'est quand même important. Moi, je parlais de l'apostolat récemment avec quelqu'un, et souvent on vous pose des questions, l'inquisition, le machin, etc. Deux questions clés actuelles, la capote anglaise et l'inquisition. C'est les deux dogmes auxquels s'intéresse la prêtre, enfin quelques autres aussi, la Shoah, etc. Mais ça, c'est pas un dogme, en fait. Mais alors voilà, alors c'est les deux points. Imaginez, attendez, est-ce que Dieu existe? C'est quand même intéressant de se poser le problème, quoi. Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce que l'Église est mandatée par le Christ? Donc il y a un ordre de réponse qui est très très important. Et là, c'est pareil pour les preuves de Dieu. Vous voyez, en fait, est-ce que mon intelligence atteint la réalité, les valeurs profondes de la réalité qu'on appelle l'être dans la tradition métaphysique? Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus parce que je me suis rendu compte que si on répond pas. Si on ne montre pas l'inanité, enfin je me suis pas occupé de réfuter Kant, j'ai essayé de montrer que l'intelligence a vraiment la nature même de l'être, dans les choses qui sont autour de nous. Et si elle ne l'atteint pas, il n'y a pas de preuve de Dieu. S'il n'y a pas de preuve de Dieu, c'est comme emmerdant. Excusez-moi de parler comme à l'académie, mais c'est emmerdant parce que ça reste un pieux, une pieuse supposition, on se fait plaisir, etc. Quoi. Donc c'est très important de retrouver la portée métaphysique de la raison humaine. C'est pour ça que je vous ai mis le premier point. De citation de Paul VI dans son credo, Protonale Profession de foi, du 30 juin 68, où Paul VI rappelle que l'intelligence atteint non pas simplement ses propres sécrétions, non pas des états de conscience, elle atteint ça aussi, mais elle atteint ça parce que d'abord elle atteint le réel, c'est-à-dire ce qui est, il faut de la substance. Il y a des réalités qui émanent des choses, et ces émanations les captent par notre intelligence, et en captant ces émanations, on remonte la réalité profonde de ces choses que la tradition philosophique appelle la substance. S'il n'y a pas de substance, eh bien, c'est très embêtant. S'il n'y a pas de substance, tout flotte, quoi. S'il n'y a pas de substance, il y a des accidents. Vous allez chez le boucher, chez celui qui vend les choses fraîches, là, et vous dites, donnez-moi 5. Alors, il dit, mais 5 quoi? Donnez-moi blanc. Mais blanc quoi? Etc. Et vous voulez 5 œufs blancs, bon. Mais il faut dire quand même le nom de la substance, sinon vous n'aurez jamais rien. Bon, les gens qui critiquent la substance ne peuvent pas exister, quoi. Et c'est embêtant. Parce qu'en fait, tout est phénomène, tout est apparence. L'apparence de quoi? Si rien n'apparaît, il n'y aura pas de phénomène. Donc Gaborio, pour ça, a fait un énorme travail. Il a vraiment repris la métaphysique réaliste en reprenant ce qu'il y a de meilleur dans la phénoménologie moderne, en partant des phénomènes et en montrant à partir des phénomènes la compétence de la démarche d'Aristote pour dire, oui, il y a un certain nombre de choses qui sont des qualités, des quantités, des lieux, etc., et finalement des substances. Notre intelligence portée par un mouvement naturel arrive par induction, elle ne voit pas les substances, à se dire, ben oui, il y a en face de moi, bon, là tout à l'heure quelqu'un de plus est rentré, ça faisait une substance de plus dans la salle. Et non, puisqu'il a source après des propriétés. Alors chez l'homme, c'est plus facile de comprendre qu'il y a une substance, hein, parce que nous avons l'expérience quand même de notre certaine expérience dans les faits de notre pensée, etc., de notre existence. Donc on arrive plus facilement à se dire, j'existe, quoi. S'il n'y a pas de substance, en fait, j'existe pas vraiment. Je vous ai parlé du bouddhisme tout à l'heure. Le problème du bouddhisme, c'est que un de mes amis était en train avec un... Lui était en soutane, et le moine bouddhiste était en habit de moine, quoi, à Safran. Ils ont discuté philo. Et rapidement, le moine lui a dit, mais vous inquiétez pas, je suis athée. Alors, les bons occidentaux, il y a la grande religion bouddhique. Attendez, là, j'ai dit ça à mon ami... Kato, mais qui connaît bien le bouddhisme, qui l'aime bien, pas trop, et il disait, bon, il y a différentes interprétations, mais c'est comme ce moine a quand même dit ça, mon copain, je suis athée. C'est plutôt une espèce de réflexion philosophique sur la démonstration, plutôt la prise de conscience par une certaine athèse, de l'illusion de toute chose, que les hindous appellent le maya, toutes choses sont illusions, et en fait, il faut perdre conscience de cette illusion, il faut prendre conscience de cette illusion pour se rendre compte que nous ne sommes pas, il n'y a pas de moi. Parce que moi, voilà, c'est une chose d'impur, ça n'existe pas. Donc c'est quand même, vous voyez, une démarche extrêmement... c'est peut-être apaisant au point de vue psychologique. Il y a des techniques psychologiques très fortes qui ne sont pas forcément intrinsèquement perverses, mais qui sont dangereuses si elles ne sont pas dégagées de leur substrat philosophique, qui consiste à annihiler la raison, parce que la raison est au fond ennemie de l'homme. La pensée est contraire à l'homme, est contraire, elle n'est pas un chemin à la divinité, et prendre conscience que je ne suis pas. Si je reste dans mon corps une fois que j'ai pris conscience, comme le font les bodhisattvas, c'est par miséricorde pour que les autres prennent aussi conscience. Donc la miséricorde bouddhique est très différente de la miséricorde que... Donc voilà, Paul VI dit, bien, oui, il n'y a pas seulement les phénomènes, il y a ce qui est. Vous voyez, sous les pavés et la plage, on ne l'a pas trouvé, on a essayé de vous expliquer ça la dernière fois. Depuis, j'ai trouvé un article intéressant sur l'euphorie. Quelqu'un qui a analysé 68 et ça de suite, en termes d'euphorie. Les gens s'emmerdent tellement qu'il faut toujours faire des trucs qui occupent tout le temps. Même dans les intervalles des Jeux Olympiques de Pékin, il y a du bruit. Certains appellent musique, enfin, des trucs. Mais parce qu'il ne faut pas une minute de blanc, quoi. Hein, et il faut toujours vivre dans une sensation forte, parce que toute absence de bonheur immédiat est une catastrophe. Bon, dans Sous les pavés, il n'y a pas la plage, habituellement. Et en tout cas, il n'y avait pas la plage, on se sentait. Et si sous les accidents, il n'y a pas la substance, ben on est foutu. Il y a la substance sous les accidents. Et notre intelligence y va. C'est pas qu'on va écarter les accidents, tiens, bonjour substance, ça va, serrer la main de la substance. Évidemment, la substance se manifeste à nous que par les accidents, c'est notre problème. Mais c'est elle qui se manifeste. Hein, et ça, c'est vrai pour nous, les êtres humains, c'est vrai pour les animaux, c'est bon, un chat, c'est une substance, etc. Et c'est vrai aussi, de façon un peu plus subtile, dans le domaine des substances inanimées, il y a quand même des choses, bien que l'étude phénoménologique des réalités physiques est très complexe, si on ne dit pas il y a quelque chose, et bien on arrête d'étudier. S'il n'y a rien, ben on part à Charenton, on va faire du karaté ou du je sais pas quoi, ce qu'on aime ou quoi, hein, se distraire. C'est bien parce que les savants sont persuadés qu'il y a quelque chose, qu'ils étudient le comment de ce quelque chose, que le métaphysicien cherche le pourquoi. Et ça c'est vraiment très important de reprendre conscience de ça, et d'avoir une saine subversion métaphysique contre la... Il faut le dire. Donc il faut s'insurger contre la démission métaphysique, parce que bien que la métaphysique soit un peu difficile, on n'en fait pas l'économie. Donc Paul VI le rappelle très justement. Alors ensuite, au-delà des substances, bon, il y a un réel, c'est l'intelligence atteinte, l'être, et spécialement cette manifestation la plus noble de l'être, c'est la substance, c'est un être qui se suffit d'une certaine façon. Blanc ne se suffit pas, fin ne suffit pas, eux a une certaine suffisance relative, je a une certaine suffisance relative. Il y a ces réalités dans le monde autour de moi. Et c'est ma raison naturelle qui arrive à ça. Alors, au-delà de ces choses-là, est-ce que mon intelligence peut aller à un fondement plus fort, plus fond, encore plus fondamental? Est-ce qu'au-delà des substances, il y a le rêve, hein, il y a un trou dans le continuum de l'espace-temps métaphysique, et on tombe dans, je ne sais quoi, dans un univers parallèle. Enfin bon, là, on disjoncte, quoi, complètement. Par définition, l'univers parallèle, c'est pas une réalité ni physique, il est parallèle, ni métaphysique, parce qu'il est posé gratuitement. Mais c'est le fondement de beaucoup de BD, semble-t-il. Alors, au-delà de la substance, est-ce qu'il y a le rêve ou est-ce qu'il y a le réel ? Là, alors, j'ai mis là une grande citation de Jean-Paul II, qui reprend la phrase de Romains 1,19, où, au fond, saint Paul affirme, nous dit Jean-Paul II, la capacité métaphysique de l'homme. Et cette encyclique est vraiment très importante, parce qu'elle a rappelé que l'homme a une capacité métaphysique qui lui permet de dépasser le sensible, et avec son intelligence d'atteindre les substances, et avec les substances d'atteindre la source des substances, l'origine profonde des substances, le principe premier des substances. Donc cette capacité métaphysique, il est important de l'oublier avant d'aller plus loin. Et saint Paul, prédicateur survient. Et les substances, donc, est-ce que saint Paul affirme, justement, par rapport aux païens, il est très sévère avec eux, il dit, ils ont vu l'œuvre, ils n'ont pas conclu à l'existence d'un artisan. Oui. Et ça, c'est quand même, il en accuse les païens qui n'ont pas rendu gloire à un Dieu unique et qui ont adoré des idoles. Donc, il leur dit, vous avez fait une faute. Parce que votre intelligence naturelle pouvait vous conduire des œuvres à l'artisan. Et donc, il affirme qu'il y a une capacité métaphysique de l'homme. Et là, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de métaphysique, vous déclenchez la dérision. C'est une rêverie métaphysique, ça revient à peu près à dire, c'est de la poésie, quoi. C'est de la poésie. Bah, d'abord, la poésie atteint quelquefois un peu le réel, enfin, un autre niveau que la métaphysique, mais quelquefois, c'est la métaphysique des simples, la poésie. Et ou l'art, non, mais c'est vrai. Moi, je crois que les gens sont beaucoup plus dans la métaphysique, finalement. S'il n'y avait pas de métaphysique, on se ferait chier du soir au matin. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment que 24 heures sur 24, vous êtes branché sur le cours des banques, où vous faites des trucs, bah, c'est intéressant, je veux bien, mais à la fin, c'est pour les gars, quoi. Donc il y a de la métaphysique qui se traduit habituellement pour les gens par la poésie, par l'art, par l'amour. L'amour est une réalité métaphysique. Si l'amour n'a pas une portée métaphysique, non, ma femme est un tas de neutrons, pour pas la mienne, je ne sais pas, mais là, l'amour, c'est monsieur, un tas de neutrons, et bon... Évidemment, embrasser un tas de neutrons, c'est sympa, mais si on essaye de démontrer que c'est le résultat de l'équation de Schrödinger, du coup, ça manque comme de poésie, quoi. Alors, ça prouve pas que c'est vrai, mais quand même, je crois que les hommes, l'amour est comme un chemin pour la vérité. Je crois, si on arrive à faire la métaphysique de l'amour. La plupart des... Enfin, beaucoup de gens, quand même, ont une certaine expérience de l'amour. Pas seulement de la passion, mais de l'amour. Et imaginez, quand vous aimez votre mère, je viens de revoir ma vieille mère qui a 93 ans, qui est toute jeune et ça. Ben, j'aime quelqu'un, quoi. Et je l'aime vraiment, et je l'aime pas pour un avantage quelconque qu'elle me procurerait. Sauf qu'évidemment, elle en procure beaucoup, c'est toujours pas assez gratifiant d'être avec sa vieille maman. Mais vous voyez, enfin bon, on se rend compte, ça va un peu au-delà, enfin j'espère, sinon je me dis, moi je me serais déjà flingué, quoi. Je me suis pas flingué parce que j'ai retrouvé la foi. Donc l'amour, je crois, peut mener à une dimension métaphysique qui est cette réalité métaphysique d'une relation spirituelle d'un être à un autre. Qui est quelque chose de métaphysique, la relation entre deux personnes, entre deux substances, pourquoi ces deux-là, qu'est-ce que c'est que cette relation, quelque chose qui nous fait dépasser le sensible. Celui qui dit « je ne crois qu'à ce que je vois », ben, il ne croit pas qu'il est le fils de son père, parce qu'il a beau voir l'acte de naissance, bon, c'est pas une certitude, etc. Il vit dans un univers complètement coupé de la réalité, puis il ne croit pas à lui-même. Hein. Vous voyez, faut faire attention, ce qu'on dit « je ne crois qu'à ce que je vois », ce que tu te vois, je me vois dans la glace, bah oui, tu vois ta gueule, mais est-ce que tu te vois toi, ton... Tu ne vois pas, on ne se voit pas. Qui suis-je ? Ah, ben alors le gars, il a écrit l'identité. Mais c'est vrai que c'est assez abyssal, quoi. Il y a des réalités métaphysiques, et on en a une certaine connaissance. Vous voyez, la preuve de Dieu, c'est pareil. Tout le monde, on va citer saint Thomas tout de suite, a fait une certaine... dans une forme non scientifique, en gros, la preuve de l'existence de Dieu. Ou du moins, il ne va pas jusqu'au bout, il voit que c'est qu'il y a une possibilité. Quoi. Donc, il faut donc bien... affirmer cette capacité métaphysique de la raison, saint Paul l'affirme, il fait ici un texte de la sagesse, un livre de la littérature sapientielle, donc des quatre derniers siècles avant Christ, dans le milieu hellénistique alexandrin, des juifs qui ont été beaucoup au contact des sages grecs, et qui ont fait de très beaux textes, et un grand texte de la sagesse qui est une charge à fond contre les athées. Un texte encore plus développé. Et lui, là, dans l'épître aux Romains, saint Paul le reprend, et ce texte aux Romains est cité par le par différents textes, le Concile de Vatican I, le Concile de Vatican II, le Catéchisme de l'Église catholique, comme un texte tout à fait central. Donc il est révélé que l'intelligence peut naturellement atteindre Dieu. Ça ne va pas fausser la démarche, hein, parce que si on vous dit prouver que le triangle a 24 cm² de surface, il faut quand même le prouver, on va voir si vous arrivez à le prouver ou pas. Et le prof arrivera à voir. Bon, vous connaissez le résultat, on sait que nous, ceux qui ont la foi, ils savent que Dieu est. Mais la démarche rationnelle n'en est pas invalidée pour autant. Enfin, on va revenir là-dessus. Bon. Donc c'est une démarche qui est à la fois possible mais difficile. Il faut être entre la présomption et la démission. Il ne faut pas être pas présumer, c'est pas évident. Il ne faut pas dire que tous les athées sont de mauvaise foi, ou les agnostiques. Oui. Là j'ai une lettre de Garrigou-Lagrange à Charles Maurras. Je vous dirai peut-être un passage. Il écrivait très tôt dans les années 1910-1912. Et Maurras disait, bon, il avait perdu la foi sans le coupablement, mais dans son cheminement après, il disait, ne me forcez pas à dire que je vois, alors que je ne vois pas, il ne voit pas la validité des preuves, enfin la crédibilité de la foi, donc, etc. Donc il n'allait pas plus loin, finalement il a vu. Mais, oui, donc tous les athées ne sont pas de mauvaise foi, on dira la prochaine fois, bien qu'il y ait beaucoup de causes de mauvaise foi là-dedans, d'accord. Mais donc c'est pas évident, mais c'est possible, vous voyez. La Sainte Église Notre Mère, ça c'est l'enseignement de Vatican I, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Et l'anathème correspondant, parce que c'était bon vieux temps, enfin bon vieux temps, le bon sous certains aspects, mais quand on était sous l'anathème, on ne devait pas trouver que c'était bon vieux temps. Mais il y avait pas mal d'anathèmes. Maintenant, on ne fait plus d'anathèmes parce que ça fait mal aux gens. Et du coup, le peuple est trompé par les hérétiques et ça fait mal au peuple. Enfin, moi, c'est ma perspective de dominicain, parce qu'il y a toujours un peu des relents d'inquisition cachés. Mais je trouve qu'il vaut mieux condamner un ou deux types, il faut tâcher que ce soit le plus juste possible, mais une fois qu'il est condamné, comme ça on sait qu'il est hérétique, quoi. Au lieu que, je crois que depuis 60 ans, on subit à des différents niveaux de la hiérarchie, la prédication de gens qui favorisent, certains, pas tous. Je suis enregistré, ça se dit de communiquer au Saint-Office. Mais de gens qui sont, quelques-uns sont hérétiques, d'autres ne savent pas ce qu'ils sont, sont trop bêtes pour être hérétiques, sont pas hérétiques quand même. C'est à l'intelligence, il faut se rendre compte qu'on est opposé au magistère, comme ils ne savent pas ce que c'est le magistère, je pense qu'ils sont simplement bordéliques et cons, dernier degré. Enfin, je vous dis ça, moi je suis un peu méchant. Mais il faut un peu, parce que quand même, vous êtes jeune, mais moi ça fait combien? Ça fait depuis, quand j'étais jeune, j'ai dit à mes copains, dans l'église, il y a les jeunes intégristes et les vieux cons. Donc c'était pas très loin, déjà pour les traduits de l'époque, il n'y en a pas encore pas. C'est ni des vieux cons, ni des jeunes intégristes. Mais on a subi les progrès sous depuis longtemps. Et ils nous bazardaient des trucs, soit insipides, dans le meilleur des cas, sur le CCFD, qui à l'époque n'était pas le CCFD, contre la guerre d'Algérie, moi, c'était insupportable, contre les bourgeois, tout, donc là, on arrêtait de donner la quête, on était pour leur poire, ou bien des hérésies. La Sainte Vierge, c'est une dame comme vous, c'est une dame comme moi. Pourquoi, madame, vous êtes immaculée conception? Ah ben non, pas vraiment. Dans les groupes de catéchisme. Bon, mais des trucs, mais des monceaux d'hérésies, au début, elle était peut-être un peu trop soupçonneuse sous Pionce, par exemple. Mais après, je vous assure, même au niveau chanoine, évêque et, ou cardinal, on subissait des trucs complètement approximatifs. Le pape n'est pas chef de l'église, vient de nous déclarer un évêque français, que je ne suis pas nommé. Mais... Il ajoutait d'autres choses, enfin, même s'il ajoutait, c'est hyper équivoque, je suis désolé. Le pape n'est pas le chef de l'église, le pape est le chef de l'église. Bien sûr, chaque évêque est aussi représentant du Christ dans son diocèse, mais ce n'est pas une opposition. Alors voir un évêque qui nous bazarde ça pour nous dire, faut pas prendre, faut pas trop avoir de dévotion, pas parce qu'il n'est pas le chef de l'église, ça m'a tout un petit peu surprenant. Moi je vous dis ça, je suis loin d'être pas beau là. Enfin je suis catholique, donc c'est mot noir sur blanc, c'est dans le saint, dans l'évangile et dans saint bon. Alors donc il y avait un anathème qui dit, celui qui dit que l'intelligence naturelle ne peut pas atteindre le vrai Dieu, qu'il soit anathème. Donc c'est pas l'invention du Dieu d'Aristote qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme disait Blaise, Pascal. Non, non, c'est le vrai Dieu. Et il a à voir. On va voir comment. C'est nuancé, c'est délicat. Mais si on atteint un principe premier du monde, c'est celui qui s'est révélé. Il n'y en a pas. Il y a une cohérence fondamentale, et ça, c'est complètement en crise aujourd'hui. La montée par la voie de la raison répond à la descente par la voie de la révélation. Et c'est le même Dieu qui nous a donné l'intelligence qui monte vers lui en marche arrière, sans le voir. Il y a des effets, donc il y a. Entre guillemets, en dehors du monde, il y a, alors on va voir quoi, mais il y a, et c'est le même qui nous parle dans l'évangile et dans toute la révélation. Ça peut pas être, c'est absolument impensable que ce soit de. Et la raison et la foi, en fait, la foi est un perfectionnement dépassant complètement les possibilités de la raison, mais qui arrive sur la raison. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de foi. que la raison est une capacité de l'intelligence. Donc si vous n'avez pas l'intelligence, c'est que vous n'avez pas la foi non plus. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc Vatican I dit que c'est une démarche qui est possible. Évidemment, il y a une certaine difficulté, tourner la page, qui nous est rappelée par Pie XII dans une grande encyclique de 1958. Je me suis trompé, c'est pas 58, c'est 51. Humanit Generis. Dans cette encyclique, Pie XII reprend une affirmation de saint Thomas, qui lui-même l'avait emprunté à des sages juifs, Moïse Maïmonide, s'appelait, Rabbi Moïse Maïmonide, qui disait, en fait, voilà, certes, la raison peut des choses, mais pourquoi est-ce que Dieu, dans le décalogue, a révélé des choses que la raison naturelle peut atteindre? Eh bien, il a révélé parce que il fallait permettre à tous d'arriver avec certitude et facilité, et sans mélange d'erreurs, à la connaissance du premier principe du monde, parce que ça va jouer un rôle dans notre salut. Oui. Tous passent vers terre, hein. Tous facilement, certitude, sans mélange d'erreurs. Parce que certes, les anciens, comme Platon, Aristote, ont trouvé, connu des choses sur Dieu, mais c'était une minorité, une petite minorité. Les autres, ils n'avaient pas le temps. Et la plupart des gens ont peu de temps consacré à la métaphysique. Donc, tous ne sont pas arrivés. Alors, ils vont faire cette preuve de façon tout à fait rigoureuse. Et puis, ils ont eu beaucoup de mal, parce que il y a la passion, ça, le texte plus juste que je vous ai mis ici, rappelle que la raison est capable de soi de faire cette preuve, mais elle est perturbée par la passion. Hein, que la somme des angles d'un triangle fasse 180 degrés ou 185, ça trouble pas beaucoup les gens. Hein. Sauf les gens qui sont mathématiciens dans l'âme, mais même, non, ça leur fait pas des... On n'est pas obligé de passer chez un psychiatre quand on apprend que c'est 180 alors qu'on aurait voulu que ce soit 182 quoi, ou 185, quoi, non? Il y a des scientifiques qui arrivent à avoir des caca nerveux pour des trucs. Non, mais enfin, c'est une race spéciale, c'est comme les artistes et les théologiens, quoi. Mais le commun des mortels, ça n'engage pas notre vie, si vous voulez. Si Jules César a couché avec Cléopâtre ou pas, bon, bah, c'est intéressant pour faire un bon thriller historico-romano. Mais ça change pas ma vie.
Ah, par contre, si Jésus, si je trouve les os de Jésus, s'il a couché avec Marie-Madeleine, alors là, ça c'est mieux parce que ça te permet de taper sur les cadeaux et je te fais du Davinci Code, avec du copier-coller d'ailleurs. Et les gens achètent ça à des millions d'exemplaires. Pourquoi ils achètent à des millions d'exemplaires des conneries majusculaires? Excusez-moi, parce que historiquement, scientifiquement, ça. Eh bien, parce que je sais pas, ça satisfait peut-être à certains goûts. Je sais pas, des conneries. Maintenant, le catholicisme n'existe pas beaucoup, mais dès qu'on peut lui taper dessus, ça fait florès, on vend des bouquins, quoi. C'est sympa pour les athées, quoi, mais c'est comme un peu curieux. Parce que la passion s'en mêle, bien entendu. Si Dieu existe, si Christ est Dieu, et si l'Église est mandatée par le Christ, ben c'est intéressant. Sa tête, elle gère un redressement. De toute façon, c'est pas proprement au proche de l'existence de Dieu. Quand vous avez des problèmes de famille et autres, vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un, facilement, surtout dans un truc de famille, « Ah, mais tu m'aimes pas !» Il y a la passion qui arrive, « Ah, mais c'est parce que tu répètes ça, il y a la cousine, celle qui n'aime pas, elle t'a influencé. » Arrête, c'est un truc objectif que je cherche à te montrer. Mais ça, c'est difficile. Hein. Donc dans la vie quotidienne, on a ça. Dans les entreprises, ça doit arriver aussi, j'imagine. Il y a la passion qui vient, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas et tout, donc quand ça vient d'eux, nana et tout. Mais il faut voir d'abord l'objet. Et je crois qu'un des grands enjeux, enfin, peut-être vous pourriez en tirer de cette soirée, c'est qu'il faut se calmer mentalement. C'est-à-dire que il faut, je crois, un des grands enjeux, c'est vraiment retrouver un minimum d'esprit de contemplation. Et dans tous les domaines. Que ce soit pour prendre une décision dans les affaires, dans l'ordre familial, dans l'ordre professoral, dans l'ordre religieux, il faut prendre du recul, écouter, réfléchir, perdre son temps. C'est capital. Autrefois, l'aristocrate était le type qui n'était pas surchargé. Moi, je suis un des derniers aristocrates de la planète, j'ai pas de portable. Je n'ai pas de portable sur moi, il y en a un ou deux au couvent que j'utilise quand j'ai accueilli un cardinal à l'aéroport. Entre autres, mais enfin, c'est assez rare. Bon. Mais j'en ai pas, donc ça sonne pas. Cool. Donc pour quelquefois je me cours un peu, là j'ai perdu un temps fou, là, deux ou trois correspondances de métro parce que je suis un parisien intermittent, mais bon, voilà. Mais actuellement, plus vous êtes élevé, moins vous avez de temps. C'est pas autrefois, l'aristocrate c'était le gars qui était à l'aéropage à faire les lois du soir au matin, il buvait son 12 veaux de l'époque avec les tamero crio, de l'eau fraîche, et puis voilà. C'était cool, et les prêtres égyptiens qui ont inventé l'astronomie, ils avaient du temps, quoi, ils faisaient le sacrifice et tout. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient, les égyptiens, c'est très intéressant. Ils ont inventé l'astronomie, puis ils avaient du temps. Maintenant, le gars, plus il est élevé, moins il a de temps, moins il dort, plus il court, plus. Enfin, ça, c'est vraiment bien. Et ben, c'est nul, quoi, parce qu'il faut trouver un petit peu, on est tous un tout un peu quelque chose de chevaleresque dans l'âme, et pour être chevalier, il faut un peu perdre son temps, quoi. Faire des trucs qui ne servent pas immédiatement. même pour trouver des trucs. Moi, je trouve souvent les trucs dans le TGV, quoi, où j'ai rien à faire de spécial. Tu vois, peut-être parce que j'ai plus la pression d'une nécessité de faire un sermon, un article et tout. Tiens, machin, pourquoi, je pense, que quelqu'un a sa parole. Je sais pas, comme un café tout à l'heure, il y a un gars qui sort. Mais mon père, dis-moi, pourquoi vous êtes rentré en religion, moi. Bon, tiens, j'ai fait une autre chose, bon, je dis des trucs, mais il y a des trucs imprévus, donc c'est pas ça, ça stimule les ménages. Il y a Poincaré qui est un truc magnifique, qui est comme Bobbie Gébet en mathématiques, c'est grâce à lui que la relativité a pu être en force. Et bien Poincaré dit, il décrit le processus de la découverte scientifique comme ça. Il a trouvé en levant le pied, en prenant le petit train pour aller à Caen chez un ami, une solution d'un truc qu'il avait travaillé pendant des jours et des jours. Et ça, c'est hyper classique en science. Parce que ça repose, si vous voulez, il y a un travail inconscient de l'intellect, tout le travail rationnel est déjà fait, et donc ce qu'on appelle la connaturalité de l'être, vous êtes tellement avec votre problème que vous êtes dans le problème, ça y est, vous êtes dans le problème. Et ça, c'est une dimension fondamentale de l'intelligence, qu'on peut appeler la dimension d'inspiration, dimension pneumatique, et c'est la clé de la métaphysique et de l'existence de Dieu. La preuve de l'existence de Dieu. Et donc voilà, c'est pas uniquement de la poésie, et si on a, si elle est difficile, c'est qu'il y a de la passion. Et c'est pourquoi Dieu a daigné le rappeler, donc dans saint Paul, et a daigné nous révéler le décalogue. Pour que, malgré la passion, eh bien, nous arrivions à progresser en marchant vers lui. Bien que, éventuellement, le résultat va être onéreux pour nous. Mais ça, c'est la clé. Quel est le but de la vie? C'est de se conformer à la vérité. Il faut que nous nous conformions à la vérité. Mais ça va faire mal. Peut-être. Mais ça fera sûrement plus mal si vous ne conformez pas à la vérité. Vous allez avoir un déni de réel, et il va vous retomber dessus et ça va faire des catastrophes. Il faut se conformer à la réalité, même si elle est rugueuse. Et là, que notre intelligence se conforme au réel, il y a du réel devant moi, où est-ce qu'il me conduit? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la troisième partie, mais je vais simplement esquisser le démarrage des cinq fusées et forces spéciales à partir des cinq bases du fond bête métaphysique, comme ça c'est mon invention. J'ai trouvé, c'est uniquement pour les gars qui ont fait l'armée. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, quand on faisait la PMS, il y avait un truc qu'on appelait le mec, c'est une plaisanterie annexe pour me détendre. Mais parce que c'est pour dire qu'on voit l'être quand il bouge, même qu'on voit l'ennemi et quand il bouge, donc il y a des moyens de le repérer. Bon. Alors, là, on est en face du monde. Et vous voyez, je crois que, il me semble que si la preuve de Dieu ne dit plus quelque chose aux gens, ou semble ne plus leur dire, c'est vrai que le monde lui-même ne leur dit plus quelque chose. Je crois que c'est ça. En fait, ils sont tellement dans l'action. Ben, l'action, c'est une déclinaison de l'être, transitive. Si vous voulez, vous courez, vous faites ci, vous faites ça. Bon, l'action, c'est pas la totalité de l'être. Ou ils sont dans le calcul, dans le quantum. Ben, c'est une partie de l'être. Mais ils sont plus, ils vont tellement vite, si vous voulez, que ils hallucinent. Quoi. Je vous ai raconté, j'étais à Beyrouth, un spécialiste du monde syriaque qui demande de rester avec un frère, un autre père, et il mange un cas de spécialité. Lui, il était juriste, alors il lui dit. La philosophie du droit, et moi, me dit-il, moi je fais de la métaphysique. Alors le père a dit, ah là là, la métaphysique, le père Marie-Dominique Philippe me disait, oulala, la métaphysique, l'être. Ça fait un petit nuage quand on a 42 de fièvre. Donc vous voyez, les gars, la métaphysique, non, attendez, calmez-vous, quoi, il y a l'être, quoi. Donc il faut retrouver le contact avec l'être. Et je crois que c'est tout à fait. Si justement la preuve ne marche pas, c'est qu'au fond, on nie la réalité de l'être. Et c'est pourquoi, justement, la négation de Dieu n'est venue qu'après la mort de la métaphysique. Et actuellement, le gros problème de la philosophie qui tourne en rond, c'est que c'est une histoire de la philosophie dans le meilleur des cas, quand elle est honnête, elle vous décrit ce qu'ont pensé les penseurs, et chacun des penseurs déconstruit le penseur d'avant, déconstruit le langage, déconstruit mais il n'a pas l'idée qu'il y a une réflexion sur le réel qui est devant nous. Et c'est très surprenant, même de faire une thèse sur un sujet purement spéculatif, comme j'ai fait en métaphysique, les examinateurs tombent quelquefois un peu dénus. En fait, il y avait une fois dans une bibliothèque, j'ai entendu cette réflexion d'un père, j'ai dit, je fais une thèse sur l'être à quelle époque. C'est-à-dire qu'il veut dire comment saint Thomas a pensé les Thomistes, comment Platon là. Et d'accord, on utilise tout ça, on lit tout ça, on est content d'avoir les bouquins, d'avoir toute cette perspective historique, mais l'être, il est là de toute façon, quoi. C'est sa quasi-définition, si vous voulez dire. Alors donc, le point de départ, il y a trois choses dans la preuve de Dieu, il y a un point de départ, hein. En fait, qui sont, j'appelle ça, les cinq bases par lesquelles partent les fusées et les forces spatiales, si vous voulez. Bon, il y a un point de départ, puis on va voir qu'il y a à la fois la richesse et la pauvreté. Il y a une fusée et une spatiale qui nous fait sortir du monde, hein, qui est le principe de causalité, ce qu'on appelle le médium. Ça, c'est le problème fondamental, c'est le médium. Après avoir bien saisi qu'il y a une réalité à la fois très riche mais déficiente, hein, on prend la fusée du principe de causalité, et il y a un point d'arrivée qui est une chose auquel nous ne donnons pas de nom tout de suite, si vous voulez. C'est un réel en dehors du monde, mais qui est réel. Qui est réel parce que le monde est réel. Si le monde n'est pas réel, Dieu évidemment n'est pas réel non plus. Et je crois que c'est ça le gros problème, c'est qu'enfin pour les gens, la réalité du monde est illusoire, ou elle n'intéresse pas. Alors si la réalité du monde n'intéresse pas, ben Dieu qui fonde cette réalité, vous ne pouvez pas le rejoindre. C'est impossible. Il y a une auto-castration de la raison. Vous pouvez faire des maths, mais si vous réfléchissez au fondement des maths, vous êtes bizarre. Vous pouvez faire de la physique, voir comment le monde fonctionne, se développe et tout, mais le pourquoi. Si vous posez la question du pourquoi, vous faites halluciner les gens, vous traitez de fondamentalisme, d'intelligence, de design, de tout ce que vous voulez. Il faut quand même poser la question du pourquoi, c'est deux questions distinctes, c'est deux fonctions de l'intelligence, le comment qui est étudié habituellement dans les sciences dites exactes ou plus ou moins exactes, expérimentales, on a des critères assez tangibles, et puis le pourquoi qui est étudié par la métaphysique et la religion et la théologie. Les deux choses sont légitimes. Et actuellement, le gros problème de la médiumnité, c'est une autocastration de la fonction métaphysique de l'homme. Il n'y a plus que la fonction de mesure ou la fonction d'expérience, et d'expérience au sens le plus court du terme. C'est pour ça que beaucoup n'admettent pas le terme de preuve de l'existence de Dieu, et je crois qu'il faut le maintenir, c'est preuve au sens analogique du terme. Ce n'est pas une preuve comme dans un laboratoire, mais c'est une preuve métaphysique d'une réalité tout à fait réelle et même surréelle, pas appuyée sur la réalité et la déficience du monde qui nous entoure. Donc on va parcourir ça, et in fine, une fois qu'on sera arrivé au troisième point, on va se rendre compte que cette réalité que j'atteins uniquement d'une façon relationnelle, uniquement comme une source, comme une origine, comme un principe, comme le terme d'une relation, je vois le départ de la relation, mais je ne vois pas où elle s'arrête. Oui. Ben, cette réalité-là, il se trouve que les religions, spécialement la religion chrétienne, l'appellent Dieu. Et la fin, c'est ça la preuve, c'est « et cela sous le nom de Dieu ». Donc le croyant n'a pas de mal à reconnaître, celui qui n'est pas croyant doit progresser encore. On ne dit pas qu'on a démontré la Trinité. Mais on a démontré une réalité, et si on a bien démontré, cette réalité, on s'aperçoit qu'elle coïncide avec ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc ça, c'est important, et de se rendre compte que soit quoi on arrive, c'est quelque chose de mystérieux, et on se rend compte que ce quelque chose de mystérieux a déjà été nommé par les religions, et a parlé, prétendre à parler dans les religions. Donc c'est un autre problème, mais on l'appelle Dieu, et on verra que c'est tout à fait légitime, que ça correspond aussi à ce que la pensée commune des hommes désigne sous ce terme. Si Dieu existe, c'est quelqu'un qui est transcendant, c'est quelqu'un qui a une certaine providence sur le monde. Les deux grands points, hein, sont dans le mystère de Dieu, il y a le fait qu'il est, mais qu'il est d'une façon incroyablement plus fort que nous, et puis qu'il a sur le monde une certaine gérance, si vous voulez. Un type particulier que la théologie appelle la providence, mais voilà. Mais à peu près toutes les religions, avec des erreurs de plus en plus grosses ou de plus en plus petites, arrivent à peu près à cette idée-là. C'est dans le fond commun, si vous voulez, de la pensée de l'humanité, et ce fond commun n'est pas maîtrisable. Une fois que vous laissez tomber l'aspect mythique, l'aspect diabolique, l'aspect tout ceci, vous vous rendez compte que la plupart des hommes font cette démarche et peuvent faire cette démarche. Et je crois que le fondement du réalisme, c'est une certaine confiance en l'homme. Pas au sens moderne du terme, mais si vous voulez, quand Aristote parle de quelque chose, vous voyez, la plupart des gens nomment cette chose sous ce nom-là, et à partir du nom, il part et fait une réflexion. Alors là, nous, on part du réel. Dans le réel, il n'y a pas Dieu, donc on n'a pas besoin de commencer par poser Dieu. Il y a le réel devant nous. Et le réel, il existe. Donc ça, c'est le premier point. Si on dit que l'intelligence n'atteint pas l'existence, n'atteint pas l'être, disons, dans les choses, eh bien, à ce moment-là, tout s'arrête. Vous dites que les choses n'existent pas, ben, allez vous coucher tout de suite. C'est plus court, mais vous non plus, et donc fermez-la. Vous ne pouvez pas me contredire. Parce que vous existez. Moi, si vous me contredisez, c'est des mots, c'est des trucs, c'est des jets d'encre. Bon, très bien, on les nettoie. Tout. Si vous êtes un cracheur, moléculaire, qui va vous êtes à une fluctuation du vide quantique. Sympa. Cool. Alors, il y a une richesse dans les choses, mais cette richesse est affectée de pauvreté. Et en fait, la preuve de Dieu part sur ce dénivelé, si vous voulez. Les choses existent, mais si vous voulez, elles sont vraiment, mais elles ne sont pas assez pour rendre raison. Hein, le mot grec aïtia, ça veut dire raison responsable au sens juridique du terme. Et l'intelligence humaine est invinciblement portée à chercher le coupable, si vous voulez, à chercher le responsable. Et donc, les réalités, on s'aperçoit qu'elles sont, ça c'est indéniable, on va voir comment on s'aperçoit qu'elles sont, parce qu'elles bougent, bon, on les saisit dans le réseau de la causalité, mais elles ne sont pas assez pour dire « et j'ai le droit d'être ». En termes juridiques, elles n'ont pas raison. Dans le procès qui est engagé avec le philosophe, tu existes, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? D'où tu sors ? Où vas-tu ? Etc. Mais pourtant, elles sont là. Si elles ne sont pas là, le problème est terminé.
Donc vous voyez, c'est ce dénivelé qui enclenche la preuve de Dieu. Et donc ce dénivelé a cinq facettes parce que les réalités sont engagées dans un réseau de relations, et c'est uniquement dans les relations mutuelles qu'ont les choses les unes avec les autres que je peux remonter vers l'être. En fait, l'intelligence humaine est incarnée et elle saisit l'être, elle voit l'être quand il bouge. C'est pour ça que je parlais du phonème, parce que la préparation militaire spéciale, on nous disait la forme, l'ombre, le mouvement, le bruit, la couleur, c'est des trucs auxquels il faut faire attention quand vous êtes à vous profiler pour essayer de dévingoler l'adversaire dans les missions individuelles du combattant. Eh bien, il faut faire attention à ce que vous n'ayez pas une forme qui tranche par rapport aux arbres, à ce que vous ne projetiez pas une ombre qui vous rend visible en envoyant le pruneau de la grenade défensive par-dessus le talus, parce qu'on a vu votre ombre, vos malins, etc. À ne pas faire du bruit quand vous faites votre casse-croûte pour faire quand vous faites chauffer sur votre réchaud. Bon. L'éclat, c'est aussi important, parce que vos armes et compagnie, donc on teint les armes et tout. Et puis la couleur. Donc, c'est pour ça que maintenant on n'est plus en bleu garant, c'est horizon, mais on est en camouflé, quoi. Donc c'est un peu mieux. Donc ça, on appelle ça le fond bête, quoi. Ou le fond mec, ça dépend des yeux. Alors le fond mec, ça veut dire qu'on voit quand ça bouge. Et bien nous voyons l'être, enfin nous voyons entre guillemets, nous atteignons l'être, plutôt nous l'entendons, quand il bouge. Et comment il bouge? Et bien il bouge en se poussant dans l'existence, en se mouvant d'un état à l'autre, on appelle le mouvement. Il bouge en influant les autres réalités, il bouge en sens qu'il est fragile, il est misérable, enfin, la preuve c'est que pour les vivants, il meurt. Donc la mort est un élément de sa métaphysique très important. Souvent, elle n'est pas étudiée en philosophie, mais la mort fait prendre conscience de la précarité fondamentale de la substance vivante. Donc, il bouge là, le vivant, hein. Il est dans une plénitude d'être, et il passe à un état de choses qu'il n'a non dans aucune langue. Donc, c'est la troisième voie de Saint Thomas. Et puis ensuite, c'est une palette, si vous voulez. Il y a une palette, si vous voulez. Il y a des choses plus ou moins. D'où vient mon idée de plus ou moins? C'est sûr quand même que la Joconde, c'est plus beau qu'un crapaud, enfin, me semble-t-il. Je suis hardi là, mais enfin bon. Comment j'ai l'idée du plus dans la beauté? Non, mais ça paraît, ou Frangelico, c'est mieux que Picasso qui vendait ses trucs pour se foutre de la gueule des bourgeois, pour de faire les beaux dessins qu'il faisait quand il était plus, à mon avis. Mais vous voyez, pourquoi le Parthénon, c'est beau. Bon, mais comment, et c'est plus beau qu'une Tunis, des favelas, de Rio, enfin, dans l'ordre architectural, peut-être une beauté morale dans la favela. Bon, mais comment j'ai l'idée du plus? S'il n'y avait pas quelque chose dont mon esprit était capable de se rapprocher, que mon esprit saisit un peu une idée du plus et du moins, donc l'être, il est étagé. Non seulement il se pousse dans l'existence, une cerise était verte, elle devient rouge, c'est bizarre. D'où lui vient le rougissement? Il n'est pas en lui à la base. Bon, il y a une influence des choses les unes sur les autres, le soleil fait germer les plantes, etc. Donc l'être, on le voit, l'être envoie des rayons d'être sur les autres, mais nous les saisissons, nous en botanique, nous les saisissons en physique, nous les saisissons en économie, les flux commerciaux, etc. Donc il y a une influence de causalité mutuelle, et puis on saisit aussi une certaine contingence. On ne saisit pas directement la contingence, mais au moins la corruption. Il y a un certain nombre de choses qui se déglinguent, si vous voulez. Et d'autres qui durent plus longtemps. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une certaine force, on la maintient une certaine, ce que certains appellent la virtus essendi. Il y a des substances qui se tiennent, si vous voulez, d'où leur vient le fait qu'elles ne sont pas toujours, enfin qu'elles se déglinguent quand même, finalement. Donc il y a cette espèce d'étagement, si vous voulez, des substances qui semblent se maintenir dans l'être, mais avec fragilité. Vous avez cité ce mot de Claudel, et nous serions en paix avec la rose. Enfin, si les choses ne nous parlait pas si bien de vous, les créatures seraient sans question pour nous et nous serions en paix avec la rose. Or, nous ne sommes normalement pas en paix avec la rose, sauf quand je suis trop occupé sur mon internet, donc là je ne regarde pas la rose. Et si je regarde la rose, j'ai mal. Enfin, surtout, je vois qu'elle est belle et qu'après elle me va. Donc, je ne suis pas en paix avec la rose, ça c'est clair. Donc, il y a cette fragilité, et puis elles sont graduées, donc il y a quand même y a des choses plus ou moins nobles. C'est vrai qu'il y a une échelle dans l'être, dans le bien, dans le vrai. Il y a des choses plus, on s'aperçoit, on a des choses dont on a plus fort la certitude, dont on sent qu'elles sont la racine d'autre chose, une forte vérité, et d'autres une vérité vraie mais plus fragile, la vérité de l'ordre éthique, la vérité de l'ordre physique, la vérité de l'ordre métaphysique. On voit un étagement, on se rend bien compte que tout ça n'est pas monolithique. L'univers est une palette, si vous voulez, une assez belle palette d'ailleurs. Donc il est étagé, donc à l'intérieur de l'être, on voit quelque chose qui n'est pas banal, qui est une espèce d'éclat des choses, qui est gradué, qui est varié, et puis elles sont finalisées, enfin, du moins l'ensemble est finalisé. Mais quand ce qui est impressionnant, comment dire, soit des substances, surtout les substances vivantes, soit même tout l'univers, vous apercevez que il tend vers quelque chose, enfin, qu'il y a, même si localement on a du mal à signer le vers quoi il tend, il y a des démonstrations par la cause finale, et puis même dans la réflexion philosophique, c'est même de là que vient le nom du ciel. Quand il y a un ciel bien dégagé, cosmos, c'est beau. Vous voyez, c'est ordonné, ça tourne, les choses viennent. C'est une des preuves, justement, c'est la forme élémentaire de la preuve de Dieu que donne saint Thomas dans le Compendium. Non, c'est dans la somme contre les gentils. L'homme peut, grâce à la raison naturelle, parvenir immédiatement à une certaine connaissance de Dieu, voyant en effet les choses de la nature se dérouler selon un ordre défini. La plupart du temps, l'éléphant engendre un éléphanteau et pas un crocodile. Presque toujours. Et presque toujours. Même s'il y a quelquefois l'éléphanteau à cinq pattes, c'est quand même étonnant, quoi. Le biologiste est toujours dans un émerveillement renouvelé. Pourquoi on est émerveillé par ça? L'ordre, c'est quelque chose. C'est évidemment une des preuves les plus faciles, les plus parlantes. Il y a un ordonnancement, les choses sont étagées, si vous voulez, elles sont ordonnées dans l'être. Et donc tout ça, si vous voulez, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, nous les atteignons par des épiphanies de l'être, par des manifestations de l'être, qui sont le mouvement, qui sont les influences causales qu'on mesure dans les différentes sciences, qui sont des manifestations de l'être. Et l'intelligence métaphysique va à la racine de ces choses-là, à l'être lui-même, vous voyez. Cet être que nous voyons dans les choses, il a des qualités, je viens de vous en décrire quelques-unes, mais ces qualités sont fragiles. Alors c'est ça qu'on va voir. Elles sont fragiles parce que on voit l'instabilité fondamentale qu'il y a dans le mouvement. Le mouvement, c'est fascinant, et ça coule justement. C'est une rivière, c'est beau, mais c'est plus. On ne baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On voit à la fois que c'est magnifique parce que ça bouge, et c'est inquiétant parce que ça n'est pas. Et donc à la fois, il y a un appel de l'intelligence qui est comblé par l'existence, et une déception parce qu'elle n'a plus d'identité. Or, l'intelligence aime l'identité. Et tout le travail de la science, c'est de sortir une identité du divers. Une équation, hein, c'est précisément la description d'une identité, au moins qualitative ou quantitative, à travers un divers. Quand vous pensez que le monde entier, qui fait peut-être 15 milliards d'années-lumière de diamètre, est probablement descriptible pour certains de ses aspects, par 4 ou 5 équations fondamentales, donc peut-être bientôt on va réussir à faire la mise en forme commune. Enfin, c'est hallucinant. Et en tout cas, dans certains domaines locaux, on en est certain. Des choses incroyablement variées, comme l'effondrement des Twin Towers, ou bien tous les phénomènes gravitationnels sont régis par, décrits au moins quantitativement, par une formule d'une pureté, d'une simplicité hallucinante. Hallucinante. Et Einstein disait, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Donc ces choses, on saisit l'être, si vous voulez, au travers de certaines de ces manifestations, et on se rend bien compte qu'il faut rendre compte de l'être lui-même, vous voyez. Par exemple, là, saint Thomas prend un exemple pour la question du mouvement. Nous voyons en effet que toutes les choses qui sont nues le sont par d'autres, les inférieurs par les supérieurs. Bon. Alors après, il donne un exemple de sa physique à lui, un petit peu périlleux. Et peu importe. Or, il est impossible de remonter à l'infini, évidemment. Il y a une chaîne, ma main définie, d'où sort la chaîne et comment la chaîne tourne-t-elle? Alors voilà ce qu'il explique. En effet, puisque tout ce qui est mu par quelque chose est comme l'instrument d'un premier moteur. Et si vous mettez au volant de votre voiture, votre voiture va être l'instrument de votre intelligence qui va lui imprimer certaines motions, une certaine direction, et les roues vont être mues par le moteur, etc. Et comme l'instrument d'un premier moteur, s'il n'y a pas de premier moteur, toutes les choses qui meuvent seront des instruments. Je vais vous prendre un autre exemple plus informatique tout à l'heure, tiré de clavier. Or, si on procède à l'infini dans ce qui meut et dans ce qui est mu, il n'y aura pas de premier moteur. Si vous rajoutez, si vous voulez, des trucs indéfiniment, on reste dans la série. Or, il faut sortir de la série, c'est ça la preuve de Dieu. La preuve de Dieu sort de la série, c'est quelque chose qui est hors série pour que la série puisse fonctionner, quelle que soit la longueur de la série, même si elle est indéfinie. Or, si on procède à l'infini, donc il n'y aura pas de premier moteur, alors les réalités en nombre infini qui meuvent et qui sont mues seront des instruments. N'est-il pas ridicule, stultum, même pour des ignorants, d'affirmer que des instruments ne sont pas mus par quelque agent principal? En effet, cela est semblable à celui qui, pour la construction d'un coffre ou d'un lit, ferait intervenir la scie ou la hachette sans l'opération même du menuisier. Il y a une scie, il y a une hachette, et je peux même vous dire comment il a fait, comment elles ont procédé, mais il n'y a pas de menuisier. Il faut donc qu'un premier moteur existe, qui soit au-dessus de tout, c'est ce premier moteur, nous l'appelons Dieu. On reviendra là-dessus. Clavier prend l'exemple du programme, qui est indéfiniment recopié, mais qui n'a été écrit par personne. Vous voyez, quand vous prenez un manuscrit, il a été copié par un gars. Alors le gars l'a copié d'un texte, il lui-même a été copié par un autre gars. Mais personne n'a écrit le texte. Voilà, le refus de la preuve par le mouvement, ça revient à dire ça. Il y a des textes. Alors j'étudie comment ils ont été copiés, comment ils ont été conservés, mais personne ne les a écrits. Même l'Iliade et l'Odyssée et la Divine Comédie, non.
Et donc voilà, on se rend compte qu'on a en but là, sur une impossibilité métaphysique. Il faut sortir de la série. Pas simplement expliquer, décrire quantitativement le mouvement, mais dire il y a l'existence même du mouvement suppose quelque chose qui est hors mouvement, qui lui-même n'est pas dans la série, qui n'est pas, on va le dire, qui n'est pas soumis à cette déficience d'être en chemin vers quelque chose qui lui manquera. Donc on prend ces cinq points de vue, on a devant nous ces cinq points de vue. Et dans notre intelligence, dès qu'on a l'âge de raison, il y a plusieurs choses qui arrivent. Alors on les formule plus tard, mais elles arrivent tout de suite. Le principe de non-contradiction, on ne va pas en parler directement, il y a aussi le principe de causalité. Dès que l'intelligence humaine saisit le réel, elle saisit que les choses, pas tous les êtres, Dieu lui-même n'est pas dans ce cas-là, mais les choses qui sont autour de nous, eh bien, quand elles ne sont pas par elles-mêmes, elles sont par un autre. C'est ça le principe de causalité, c'est-à-dire, si vous découvrez que l'exemple pris par l'abbé Lucien, là, au dernier agissé, il avait parlé de ça, c'était assez parlant, c'est un gamin qui fait une collection de timbres, il range tous ses timbres, etc. Bon, il descend pour faire je ne sais quoi, pour le déjeuner, pour aller à l'école, il remonte, tous les timbres sont dérangés. Et comme il s'est disputé avec son frère la veille, il dit, c'est mon frère Paul qui a dérangé. En fait, il se trompait, c'est pas son frère Paul, c'est le chat. La fenêtre, si vous voulez. Mais tout de suite, si vous voulez, il voit bien que le timbre n'a pas en lui-même, il n'a pas c'est le vent, c'est le chat, c'est le frère, c'est que sais-je. Mais c'est pas, vous voyez, c'est parce que justement, il lui manque le mouvement pour le timbre n'est pas par soi. Ou si vous avez trop chaud à la main, bah vous dites j'ai de la température, ou bien quelqu'un qui vous met un chauffage à côté, parce que de soi, par soi, la main est à 37 degrés dedans, quoi. Enfin, en gros, quoi. Et donc, si vous êtes à 39 ou à 40, vous allez tout de suite, c'est pas un truc. Et je crois que c'est un truc qui n'a pas démontré, puisque par induction, notre intelligence le communie à cette réalité-là, ce qui n'est pas par soi et nécessairement par un autre. Et c'est pas, alors justement, c'est là-dessus que les philosophes modernes ont beaucoup attaqué, mais dit c'est une représentation de la pensée, mais pas du tout. Toute l'existence même fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que quand vous. Il n'y aura aucune science s'il n'y avait pas un étonnement devant des réalités dont on voit qu'elles sont déficientes. Normalement, une éclipse, là, normalement, le soleil brille, pourquoi il brille plus? Donc il y a quand même, c'est pas par soi qu'il brille plus, donc on cherche la cause. Et on cherche le pourquoi, et c'est ça qu'on va appeler le principe de causalité. On va remonter à quelque chose qui puisse rendre raison, mais qui puisse dire il a raison d'être comme ça, et ça, le langage philosophique l'appelle la cause. Alors ce principe de causalité, vous ne l'appliquez pas comme ça mécaniquement, mais on le vit, si vous voulez. De même que le gamin qui voit sa collection de timbres dérangée, accuse justement son frère, alors qu'il y a une autre réalité qui explique là, mais instinctivement, l'esprit humain le fait dans tout le domaine où il a à se prononcer, dans toutes les causalités que je viens de décrire. Et en métaphysique, on remonte au cœur de ces causalités, l'être lui-même est tel. C'est-à-dire que ce qui est sous-jacent au mouvement, à la causalité efficiente, à la contingence, à la graduation dans l'être et à l'ordination des êtres à une certaine finalité et du cosmos tout ensemble à un certain ordre, tout ce qui est sous-jacent à ça, c'est l'être et lui-même doit être le sujet pour notre intelligence en le regardant, si vous voulez. C'est pas, je ne veux pas me retourner vers Dieu, hein. Je ne me retourne jamais vers Dieu en métaphysique. En regardant, ben je remonte vers Dieu comme la cause vers Dieu. Je remonte vers un principe qui, lui, n'aura pas les déficiences que j'ai observées dans le point de départ. Et c'est ça que je vais savoir de lui. C'est que ce ne sera pas une réalité qui sera mue, pas une réalité qui va se mouvoir, qui va se mettre en chemin vers des choses qui lui manquent. Ce n'est pas une réalité qui va être agie par une autre, qui va être causée par une autre. Je me souviens, dans un CD ou après un CD en fac, il y avait un gars, je discutais, et lui, il était agnostique, moi je ne sais plus. Et il me dit, écoute, je croirai en Dieu parce qu'il m'aura montré une machine qui se fonctionne, qui se fabrique elle-même. Alors, je crois qu'il y a un malin qui s'est amusé à démontrer qu'on ne pouvait pas justement arriver à faire une machine qui se fabrique. Mais voilà, lui il restait, vous voyez, vraiment au niveau de la causalité, si vous voulez, mécanique, quoi. Il s'agit de l'être là. Il s'agit pas, Dieu n'est pas une machine qui s'est fabriquée lui-même. Dieu est une réalité mystérieuse dont je sais une seule chose, hein, il est la cause des réalités que je vois, et il n'a aucune des déficiences, des cinq déficiences que je vous ai dites, c'est qu'il n'est pas mu, il n'est pas causé par un autre, il n'est pas tremblant dans l'être, où les dieux, et Garrigou Lagrange disait un pur éclair intellectuel éternellement subsistant, la vive flamme de l'amour. Il le dit là dans la lettre à Mouras, c'est une phrase un peu comme ça. C'est un éclair, si vous voulez, un éclair de spiritualité au-dessus de l'univers, il est hors de l'univers. La preuve de Dieu prouve qu'il y a un hors univers, mais qui est réel quand même.
Donc je ne retrouve pas le passage où il dit ça. Donc on arrive, si vous voulez, par le mouvement de l'intelligence à conclure, mais c'est la conclusion d'une preuve par les faits, eh bien, qu'il y a une cause de ces réalités changeantes, faibles, etc., qui elle-même ni changeante ni faible, et qui au contraire explique, rend compte, si vous voulez, à notre raison, de la possibilité du changement, de la contingence, etc. Elle en rend raison, mais là on est quand même, on reste un peu insatisfait parce qu'on ne la voit pas. Vous voyez, il faut aller après plus loin, réfléchir, connecter les différents attributs entre eux et puis s'ouvrir à la fois. Mais on est quand même, on arrive certainement, si vous voulez, à la, pas à l'idée, mais à l'affirmation profonde, une cause première de l'univers existe, distincte de lui, ayant toutes les perfections qui, contraires aux déficiences qu'on voit dans la créature. Mais je ne sais pas d'elle ce qu'elle est, parce que je ne vois pas Dieu en train de créer le monde. Je vois que le monde est déficient. Le monde ne se suffit pas dans l'être, donc il est le sujet d'une relation à quelque chose qui lui se suffit dans l'être. C'est tout ce que je sais. Et je sais que lui, là-bas, se suffit dans l'être. Alors je peux affirmer quelque chose de lui, avec précaution. Hein, je vous ai parlé, j'ai mis ici les trois étages de la fusée du principe de causalité. Classiquement, on les appelle la causalité, l'éminence et la négation. C'est-à-dire que elles sont en jeu dans chacune des mouvements, dans chacune des facettes de la preuve de Dieu. Il y a la causalité, parce que Dieu la cause, parce que cet être est atteint uniquement comme cause. Il y a l'éminence, parce qu'il a en lui toutes les perfections que je trouve au départ positives. Il les a à un degré différent, mais il les a. Il y a la négation, c'est qu'on nie les limites. Voyons, on dit, ce principe-là, il est immobile, il est immense, il est infini. Donc ça, c'est des négations. Et donc, on va nier les limites des réalités, on a nié les limites qu'on trouve aux perfections dans le monde, mais on va affirmer les perfections dans un état qui est un mystère. Donc cette preuve est assez frustrante parce que on est sûr que Dieu existe, on est sûr qu'il a la bonté, l'être, la vérité, etc. Parce que ça, c'est des perfections qui n'ont aucune impureté, mais le mode et la façon dont il a ces choses-là est un mystère. Et la façon dont les perfections qu'il a en lui se concilient, pour le comprendre, il faudrait que je le voie. C'est pour ça qu'il faut bien tenir les deux choses. On peut certainement prouver que Dieu existe, que Dieu, j'en parlais avec l'un d'entre vous, parce que la grande mode chez les modernos, c'est de dire Dieu n'est ni omniscient, ni tout-puissant. C'est Dieu des modernos, il n'est pas tout-puissant. Ça les défrait qu'il soit tout-puissant. Je suis désolé, la puissance en tant que telle, absolument parlant, laissant tomber tous les défauts de la tyrannie, etc., la puissance est une perfection. Dieu, c'est le premier article du Credo. C'est quand même un peu gênant, ça. D'avoir des gars qui profitent d'université ou de séminaire, qui nous explique que le premier article du credo, c'est pipeau et quelqu'un qui les comprend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est faux. Moi, je veux bien, mais il y a des moments où je regrette certains aspects du temps passé. Certains aspects, parce que je suis un peu indiscipliné, l'inquisition, j'aurais peut-être été du côté du mec qu'on torture. Quoi. Donc ça donne un rôle de l'époque et c'est pas forcément sympa. Mais voyez, donc, on remonte. Alors, on arrive à la vérité infinie de Dieu est, mais quand nous disons Dieu est, nous ne savons pas à quel point nous avons raison. Si nous savions à quel point nous avons raison, nous serions dans la vision béatifique. Donc il y a un mystère qui fait qu'on a raison de parler de voix, parce que c'est une chose qui est indéfinie, si vous voulez. Vous réfléchissez, vous méditez, vous faites oraison, vous réfléchissez, faites de la métaphysique, et vous vous rendez compte que bon, cet être-là, il a l'être, il a la beauté, il a tout, puis après vous vous rendez compte que, comme il est sa propre existence, c'est ça la grande affirmation de saint Thomas juste dans l'article qui suit, c'est un être dans lequel la nature même, c'est l'exister, c'est la fulgurance de l'être. Et à partir de là, les choses vont s'organiser, vont se connecter, sa bonté, son intelligence. Il y a cette question comme ça, où saint Thomas, avec des éléments qui peuvent aussi être tout à fait valides en raison, médite sur les attributs de cet être, mais en même temps, je ne le vois pas. Donc il y a une modestie, et j'affirme le mystère, en fait. Je vais vous lire comme le passage de la lettre de Maurras, de Garrigou à Maurras, où il dit... Alors, il faut que je trouve la première page. Voilà, elle est là. L'être de Dieu tel qu'il est en lui-même reste sans doute naturellement inconnaissable. Et pourtant, nous pouvons conclure à la vérité de cette proposition, Dieu est. Donc le principe transcendant du monde est... et les gens l'appellent Dieu. Bon. En effet, la raison voit assez facilement la nécessité d'un premier moteur, d'une cause première, d'un être nécessaire, d'un être suprêmement simple et parfait, d'une intelligence organisatrice du monde. Et chacun de ces attributs répond à un certain aspect du mystère divin, une définition de Dieu. Ce qui suffit à conclure à la vérité de la proposition « Dieu est », mais cela revient, parce qu'on nous dit que c'est du rationalisme, vous y attendez, cela revient à dire « un mystère suprême et incompréhensible est ». Quelque chose est, mais qu'est-ce que c'est quelque chose? Je le verrai dans la vision de la justice. Mais ce quelque chose, il a au moins les qualités positives et pures que je trouve ici dans la création. Sinon, elle-même n'aurait pas de fondement et se justifierait pas. Et entre autres, il est une personne. Mais c'est vrai que ça demande une certaine assaise métaphysique, et c'est pourquoi, par exemple, des gens qui ont un esprit religieux, qui sont pas vraiment religieux, une partie des juifs, en fait, sont plutôt athées que... Et lorsque nous voulons concilier toutes les perfections divines, dont quelques-unes semblent si opposées entre elles, la justice et la miséricorde, par exemple, nous évitons la contradiction sans arriver à l'évidence intrinsèque. C'est-à-dire que nous ne voyons pas comment les perfections se concilient en Dieu. Nous savons qu'elles se concilient, nous savons que Dieu est puissant, et nous savons que Dieu est bon et respecte la liberté de l'homme. Comment ça se concilie, on ne le voit pas. Et donc c'est frustrant. Mais il ne faut pas lâcher la vérité sous prétexte qu'on arrive au mystère. Oui. Alors le terme de la théologie naturelle, c'est un mystère auquel la foi va relayer, si vous voulez, le problème. Mais c'est un mystère, et c'est un mystère infiniment respectable. Cela touche le nom de Dieu. On va reconnaître, nous qui avons la foi, que la preuve, on peut la faire en ayant la foi. Pour celui qui a fait la foi, c'est plus suave, parce qu'il n'a pas peur de la conclusion. Mais même celui qui n'a pas la foi, qui difficilement progresse et fait cette preuve, ben, il se trouve là devant une réalité, et quand il ouvre son évangile, il dit, tiens, tout ce que ma raison a montré comme étant vrai sur cette réalité, c'est affirmé de Dieu dans l'évangile, et dans l'Ancien Testament, et dans les traditions philosophiques avec plus ou moins de perfection. Tout cela, et cela, tous le nomment Dieu, tous l'appellent Dieu, et donc on le reconnaît dans cet être, cause éminente des êtres du monde, sans aucune de leurs limites, celui que les religions, spécialement la foi chrétienne, nomment Dieu. Donc vous voyez, on est monté à partir de 5 observations sur la richesse d'efficience de l'existant du monde, qui a été saisie dans son mouvement, dans ses relations de causalité. On est monté dans la fusée à 3 étages de la causalité, causalité et, du principe de causalité, avec son éminence et sa négation, et on arrive en marche arrière, on sort du monde. Donc c'est un peu vertigineux, mais on sort quand même du monde. Et à ce moment-là, après on peut d'une certaine façon redescendre et dire, ben, cet être-là, s'il existe, il est unique, et il est distinct du monde, et continue à réfléchir, et ça a des conséquences capitales. Parce que si Dieu est distinct du monde, il y a une certaine liberté de l'homme. Si Dieu n'est pas le monde, je peux avaler les moustiques par accident, au lieu de mettre un masque, comme certains chez les amis. Et je peux travailler le monde avec une saine écologie chrétienne, mais je suis le gérant de Dieu pour le monde. Et le monde est une réalité bonne, mais qui est aussi à ma disposition. Ce n'est pas une réalité intrinsèquement divine, mais panthéistiquement divine, etc. Et en fait, je pense que c'est peut-être sûrement la perfection avec laquelle les vérités métaphysiques sur Dieu ont été établies en climat monothéiste par les juifs, les musulmans et les chrétiens surtout, en fait, explique, enfin, c'est en ce climat-là qu'arrive l'athéisme. À mon avis, l'athéisme est possible uniquement si on affirme un Dieu transcendant. Avant, il n'y a pas d'athée. Il y a des panthéistes, il y a des Gapisbourg, il y a tout ce que vous voulez, mais l'athée est celui qui commence par gommer le Dieu chrétien. Enfin, on verra peut-être ça la prochaine fois.
Donc, je suis à votre disposition pour les questions. Merci pour votre attention.
Thibaut,
vous dites que
un des postulats élémentaires, c'est que la raison puisse appréhender le réel.
Oui.
Et qu'est-ce qui nous dit que la raison est fiable, qu'elle ne donne pas des résultats erronés? Je donne une calculatrice qui donne des choses fausses, quoi.
Ça dépend sur quoi. Il y a évidemment des vérités dérivées qui sont plus délicates à établir, mais il y a des vérités centrales, comme le principe de non-contradiction. On auto-vérifie qu'il ne peut pas être faux. Tout le livre Gamma des métaphysiques d'Aristote consiste à dire soit l'adversaire ne dit rien, alors c'est tranquille. Soit il dit quelque chose et à partir de là, vous lui prouvez qu'il a le même principe de non-contradiction. C'est assez fort. Hein. Donc il y a des vérités, si vous voulez, qui sont tellement l'épiphanie fondamentale de l'être que l'intelligence, en saisissant les valeurs profondes du réel, formule à son sujet des jugements tout à fait essentiels, qui sont le principe de non-contradiction et le principe de causalité. Et l'intelligence se voit dans son propre acte et sait qu'elle ne peut pas se tromper. D'ailleurs, la plupart des gens qui contredisent, le type par exemple qui dit il n'y a aucune vérité, je dis sortez, ce que vous dites n'est rien.
que c'est faux, ben, c'est faux, il n'y a aucune vérité, c'est faux, donc etc. Vous voyez, c'est des vérités quand, maintenant en philosophie analytique moderne, on a retrouvé un certain nombre de choses, on montre que c'est des propositions non consistantes. C'est-à-dire qu'ils sont autodestructifs, c'est comme le, c'est des jetables, quoi. Donc on le dit ça pour emmerder le type, mais on est incapable de soutenir. Alors justement, le problème dans ces choses-là, c'est qu'il faut admettre de soutenir par la raison ce qu'on affirme. Et très souvent, je parlais hier avec un de mes neveux, qui est en fac, là, comme beaucoup d'entre vous, en quatrième année, il dit, mais on est frappé de la superficialité des arguments opposés à l'existence de Dieu. C'était plutôt des attaques, c'est des rigolades, c'est pas soutenu, donc c'est pas des preuves. La raison a des moyens de se vérifier, de même qu'en science, vous avez des expériences cruciales. Une vraie théorie, c'est celle où vous avez une expérience qui permet de l'invalider ou de la confirmer. Enfin, la théorie arrive à son état final. Donc là, vous avez des moyens de vérification du degré de certitude de la théorie physique. Et il y a des moyens de vérification en dehors de l'ordre métaphysique aussi. Mais jeter le doute, si vous voulez, sur la capacité essentielle de la raison, c'est un suicide. C'est pas, à mon avis, c'est pas une démarche rationnelle. Parce qu'elle est autodestructive. On m'a filé un bouquin qui est une parodie de toute l'histoire de la philosophie. C'est l'histoire de la philosophie de Cro-Magnon à Stevie. C'est un gars qui a dû gagner un concours quelconque. C'est absolument poilant parce que, au lieu de parler du miracle grec, il parle du désastre grec, le désastre chrétien, et par contre le miracle de Cro-Magnon. Alors l'idéal, c'est la. L'idéal, c'est pas communiquer, quoi. C'est Cro-Magnon ou bien la philosophie dans l'état où elle est actuellement, quoi. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de détruire, c'est de dire que le logos, voilà l'ennemi. L'identité, voilà l'ennemi. Moi, j'ai eu à me taper des pages et des pages de police d'un type à Nanterre qui est directeur de l'université du truc. Hallucinant, ce gars était payé par l'État. Mais les phrases, c'était presque. Moi, je les ai fait lire à un gars qui avait 60 ans de métaphysique, et il m'a dit, je pense qu'elles sont totalement inintelligibles, c'est des propositions. Et le type était acharné contre l'identité. La stratégie de l'identité, là, en fait, c'est contre la pensée, quoi. Tous ces mecs sont payés à détruire la pensée. Parce que la pensée, justement, c'est la recherche de l'identité dans le divers. À juste titre, faut pas la plaquer, vous ne voulez pas, sinon on est platonicien, etc. Mais justement, c'est dire, tiens, il y a une certaine identité, tous les corps tombent à la même vitesse, si on est là dans telle condition, etc. Donc une identité dans les choses variables. Et donc, vous voyez, c'est des démarches autodestructives et en effet, je crois que notre époque est malheureuse parce qu'elle est prise dans le... On a jeté un doute sur la raison, mais on l'a jeté gratuitement et... Alors évidemment, pour l'enlever, il faut, je crois, se remettre dans une santé mentale qui suppose aussi une purification de notre vie. D'autres questions? Oui, parlez fort. Là, quelle preuve? Oui. En parlant de.
Vous avez donné tout à l'heure un exemple pour réfuter la preuve ontologique de l'existence de Dieu.
Oui.
En parlant d'un billet de 500 euros. Le billet de 500 euros, il n'a pas nécessairement
existence. Oui, d'accord. Disons que c'était une blague, c'est pas une blague.
Oui, bien sûr,
Et les dures dans les dents, c'est Kant qui l'emploie, ou un philosophe, qui dit c'est pas parce que j'ai lisé un billet de temps.
C'est
une
blague.
Oui. Non, c'est une blague, d'accord. Mais même si elle a nécessairement l'existence, elle a nécessairement l'existence dans ma postulation idéale. Parce que vous voyez le problème, ça c'est Descartes qui nous a foutu dedans. La preuve de Dieu ne peut marcher que si on part du sensible. Parce qu'il faut que je parte de quelque chose dont j'ai la certitude absolue de l'existence. Pour pouvoir conclure à un surexister, il faut que je parte de l'exister. Tandis que dans la preuve ontologique, on part uniquement de la pensée, et on dit, dans la pensée, nécessairement, l'être parfait a l'existence. Mais c'est une existence qui est du niveau de la pensée, c'est-à-dire qu'elle est idéale. Il est impossible d'avoir une inférence, si vous voulez, qui... Parce que sinon, ça reviendra à dire que la pensée humaine, c'est la pensée de Dieu. C'est presque à quoi arrive Hegel et d'autres comme ça, vous voyez. Donc il faut faire très attention de partir du réel sensible. Notre intelligence pénétrée de sensibilité voit qu'il y a de l'être. Et là, elle commence à réfléchir. Elle ne réfléchit pas sur une idée de l'être ou sur une idée de Dieu, comme dans la preuve ontologique. Vous voyez, c'est très différent. Parce que si vous réfléchissez sur une idée, vous êtes dans le domaine des idées. Tandis que Dieu est dans le réel, si vous voulez, Dieu est encore plus dans le réel que cette table qu'il a devant moi. Je dois donc partir de la table qui existe, et mes sens ne trompent pas, ils disent bien qu'il y a une table, et remonter par la notion métaphysique impliquée par l'existence sensible de la table, un être qui en rend raison. Mais s'il n'y a pas ce réel, si le monde n'existe pas autour de moi, c'est ce qu'on appelle la cosmite, qui a été soutenu par certains philosophes, hein. En fait, le monde n'existe pas. Et même si vous êtes tout seul dans votre pensée à penser, ça ne veut pas dire que le monde existe. Il faut partir de l'existence telle qu'elle est donnée en dehors de nous. Parce qu'en fait, l'objet de la philosophie, c'est pas Dieu, c'est l'être. Et l'être nous est donné dans le monde. Ceux qui ont mis Dieu dans la philosophie ont tout confondu les plans. Dieu est étudié dans la philosophie uniquement comme la cause du sujet, nous dit Aristote, et après lui saint Thomas, qui a génialement coordonné les deux points de vue. La métaphysique, c'est l'étude de l'ontologie, l'étude de l'être, l'étant, on, ontos, et puis c'est également une certaine théologie naturelle en tant que Dieu, Théos, est la cause de cet être. Que cet être il s'avère déficient après analyse, une fois qu'on a trouvé la substance, on s'aperçoit que la substance elle-même est fragile. Et ne rend pas compte d'elle-même au tribunal de la vérité. D'autres questions? Oui.
C'est un peu la même question que Thibault, en fait. À partir du moment où on considère que donc la raison ne peut pas percevoir toute le mystère incompréhensible de l'être.
Oui.
C'est donc que la raison rationnellement se dit qu'elle n'est pas suffisante. À partir du moment où elle se dit qu'elle n'est pas suffisante, elle n'a pas quand même besoin d'un outil extérieur pour lui dire jusqu'où elle est suffisante et jusqu'où elle n'est pas.
La raison se dit qu'elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante à conclure l'essence de la cause, mais elle est parfaitement suffisante à conclure l'existence d'une cause. Quand vous voyez quelque chose a changé dans votre laboratoire, vous dites il y a quelqu'un qui est venu mettre des ordres dans mon ordinateur, ou il y a une erreur dans le. Mais il y a quelque chose qui a fait, si vous voulez. Et vous ne savez pas quoi, mais vous savez que ça existe.
Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un point fixe quelque part quand même pour affirmer.
Le point fixe, c'est l'être.
Oui.
Vous saisissez, quand on a saisi de l'être, c'est délicat, parce qu'on a saisi de l'être, mais aussi. Vous saisissez, quand vous saisissez l'être, vous saisissez toujours, nous, on saisit toujours l'être imbibé dans des essences, et dans des essences d'abord des êtres sensibles. Et donc on voit les déficiences, mais justement il y a un travail de purification, notre intelligence est capable de remonter, si vous voulez, de dire, l'être ce n'est le chat c'est de l'être, le chien c'est de l'être, mais l'être n'est ni le chien ni le chat tout seul, si vous voulez. Donc l'être c'est à la fois aussi la quantité et la substance, mais l'être ne se limite pas à la quantité ni à la substance. Il y a l'être de la substance et l'être de la quantité. Et ainsi, en faisant cette purification à la fois dans l'ordre des différentes catégories où mon intelligence affirme l'être, la relation, le lieu, l'action, la passion, etc., et la substance, et dans les différentes substances, les immatériels, les vivants et les spirituels, on se rend compte qu'il y a une variation, qu'il y a une certaine richesse, une certaine déficience, mais on arrive, on sent, c'est pour ça que je crois qu'il faut absolument affirmer qu'il y a une connaturalité profonde de notre. Par la puissance pneumatique que j'ai essayé de décrire par le processus de l'inspiration ou la découverte scientifique, notre être communie, notre intelligence, c'est l'être capable de l'être. On communie avec l'être et nous le savons. Et donc nous savons aussi qu'il n'est. Je sais que le chat en tant que tel n'est pas l'être ou pas tout l'être. Le chat c'est l'essence d'un certain être. Oui. Et donc ce travail de purification étant fait, je me dis il y a l'être en tant que tel, si vous voulez l'être en fameux être en tant qu'être, les êtres. Bien cet être-là, c'est à partir de lui que va se faire toute la preuve. Et là, je peux le vérifier. Ça c'est pour ça que toutes les preuves qui prétendent se réduire au niveau physique, on peut les réfuter. Il me semble que je n'ai pas encore ouvert contre Fondy depuis Dawkins et l'autre ont fait. En fait, quand ils attaquent les preuves traditionnelles, il faut une nature purement physique de la preuve du premier moteur. Comme s'il y avait derrière le monde une machine qui est en train de le faire tourner. Quoi. Donc c'est pas ça, c'est qu'il y a une source absolue de l'énergie ontologique. Et s'il n'y a pas cette source, rien ne bougera. Mais c'est d'un autre ordre, c'est de l'être, mais c'est du surêtre, si vous voulez. Et on en a un truc de vérification négative. Nous savons ce qu'il n'est pas, et sans savoir ce qu'il est. Ah mais c'est inépuisable. oui, non, c'est un peu épuisable, c'est vrai, c'est pour ça que je suis un peu navré. Hein. Je vous bazarde en une heure et demie, c'est... Moi, pour faire la partie là sur même la maîtrise, c'était 3 ans pratiquement. Et le doctorat, c'est plus de 6 ans. Et c'est une purification, c'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est quand même très riche, ça tient vraiment. Hein. Maintenant, je crois que. Enfin, moi, je voulais vérifier si ça tient vraiment. Et en même temps, c'est très enrichissant parce que ça nous montre la grandeur de la raison. Oui, la preuve de Dieu, c'est le lieu, c'est la preuve de la noblesse de l'esprit humain et aussi de sa fragilité. Ce que dit Pascal. Pascal dit, quand on fait la preuve, lui il était un peu trop, diminuait trop la raison. Il dit, quand on fait la preuve, on est en train de faire la preuve, et puis on est content à chaque étape, puis quand on arrive à la fin, on a oublié les prémices, on a oublié comment les prémices influent sur le... Et la difficulté de la preuve, c'est qu'il faut tout tenir à la fois. Il faut tenir la faiblesse du monde, que, par exemple, quand vous saisissez le mouvement c'est fascinant, mais c'est bouillant quoi. Donc il y a un certain type d'intelligence qui saisit le mouvement. Et l'insuffisance du mouvement. Après, vous avez un autre type d'intelligence qui est beaucoup plus pneumatique et inspirée,
qui saisit la causalité, et ce qui n'est pas par soi et par un autre, et ça c'est une saisie vraiment que vous êtes là. En communion avec les sources, la profondeur de l'être, vous vibrez, vous entendez vibrer le mystère de l'être, et puis il faut brancher l'un sur l'autre. Et au terme, vous arrivez, il y a l'affirmation, il y a une source de tout ça, il y a une source non limitée, mais justement ça suppose une extension qui pour l'intelligence naturelle est délicate. Mais alors, oui, ce que je veux ajouter, c'est que la preuve de Dieu est certaine et conclue, même si pour chacun d'entre nous, on n'arrive pas tous à une compréhension scientifique et détaillée, parce que c'est quand même la métaphysique qui est la plus difficile des sciences et des sagesses. Et la difficulté, c'est que c'est une preuve analogique. Hein. Enfin, attention, parce que moi j'accepte de mettre le mot preuve entre guillemets, vous voyez quand même, je suis drôlement libéral, je mets les preuves entre guillemets, quoi, c'est des preuves, mais ce n'est pas des preuves de laboratoire, quoi. Et je ne vais pas vous sortir le résultat avec un protocole, et puis mais c'est quand même des preuves, mais des preuves dans un sens, si vous voulez, dans un sens encore plus profond que les preuves du niveau scientifique. Donc c'est analogique, de même que la métaphysique est une science, mais plutôt une sagesse, ou la théologie est plutôt une sagesse qu'une science. Et dans la sagesse, vous avez, c'est là où il faut aussi, ce que dit le père Guérard, enfin, mon père spirituel, qui a écrit sur ce sujet, disait, il faut une conversion, entre guillemets, pour se réapproprier les preuves de Dieu, parce que l'homme moderne est plongé dans la technique. Il faut donc se convertir de la technique à la contemplation. S'il n'y a pas cette conversion contemplative, on va appliquer la mentalité purement technicienne à la preuve de Dieu, on va dire, hey, ça ne marche pas, j'ai trouvé un contre-exemple, etc. Alors il faut d'abord se calmer, se laisser envahir par les données, lire un peu les gars qui ont été là-dessus, lire les poésies qu'ils peuvent vous porter, et puis après se laisser imbiber soi-même et mûrir, quoi. Mûrir à l'intérieur de la vérité. Mais l'enjeu en vaut la peine, parce qu'un type qui se met au centre d'une vérité comme ça, c'est ce que dit saint Thomas après Aristote, ces vérités sont difficiles et elles sont pour nous comme la chouette qui essaye de regarder le soleil. Elles sont plus vraies, si vous voulez, mais elles sont trop brillantes pour nous. La métaphysique, il le dit même la métaphysique, une source à peine humaine. Mais la moindre de ces lumières est infiniment plus jouissive que les jouissances intérieures. Et c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Même en métaphysique, c'est vrai, dans le religieux, c'est évident, c'est pas évident. Mais parce que c'est tellement, si vous voulez, vous avez une telle liberté quand vous êtes dans ces choses-là, qu'après, je sais pas, le bouddhiste vous pose une question et tout, ben vous êtes détendu, pourquoi s'énerver et tout, il y a l'être, il y a Dieu qui a fait les choses, Dieu a fait le bouddhiste qui me parle, j'ai pas besoin de lui coller un coup de Garigou Lagrange sur le coin de la tronche, en parlant de mes collègues. Attendez, il y a peut-être d'autres, parce que Thibault a une deuxième question, il y avait d'autres questions par là. Oui, allez-y, parlez fort. Hein.
Pour certains chrétiens, le Dieu des philosophes, le Dieu d'Aristote, pas le même que les chrétiens.
Oui.
En particulier, on insiste parfois sur le fait que le Dieu des chrétiens souffre et qu'il respecte la liberté humaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc,
oui.
Certaines choses sont impossibles aux tout-puissants, finalement. Et donc, est-ce que saint Thomas aborde ces deux points?
Oui, oui, enfin, radicalement, parce qu'après, il nous laisse du travail. Mais j'apporte ça une nuance. C'est Pascal qui a eu cette formule géniale et malheureuse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non point le Dieu des philosophes. Les philosophes qu'il avait en face de lui, c'était surtout des rationalistes. Hein. Bon. Et je pense que c'est dangereux. Cette phrase, avec tout mon amour pour Pascal, non, si l'intelligence humaine est créée par Dieu, et qu'elle atteint une source des réalités, si cette source des réalités me parle, c'est la même. Sinon, il n'y a plus vraiment, c'est un dualisme absolument insoutenable. Alors maintenant, nous connaissons par le Dieu des chrétiens beaucoup plus de caractéristiques que même toute la science du Dieu des philosophes, si vous voulez, n'a pu nous donner. Parce qu'il nous a donné dans un état de mêlée d'erreurs, de relative incertitude, et même Aristote a eu des doutes sur la providence, en fait je crois plutôt qu'il ne comprenait pas le problème de la providence. Et ce sont les penseurs croyants qui ont repris les preuves métaphysiques pour pousser plus loin la métaphysique dans son génie propre de métaphysique, parce que leur intelligence était purifiée par la foi. Mais c'est quand même la réalité métaphysique qu'ils ont poussé plus loin. Alors maintenant, pour venir au point de l'impuissance et de la souffrance. Alors là, j'ai dit tout à l'heure, à propos de la puissance, il faut absolument affirmer que Dieu est tout puissant. Et il faut également affirmer que Dieu est infiniment sage, et que quand il crée un esprit, il y a dans la notion même de cet esprit qu'il est libre. Donc les anges et les hommes, chacun selon sa façon, sont libres. Mais ils sont libres au niveau de la créature. Et donc on en a déjà parlé ici d'autres fois, il y a la liberté de Dieu qui est infinie, qu'on a à peine à nommer, et puis la liberté de l'homme qui est la capacité de s'autodéterminer à l'intérieur de sa nature. Sinon c'était un mauvais usage de la liberté, c'est une impasse, c'est l'autodestruction qui est mort. Eh bien, s'autodéterminer à l'intérieur de sa nature, ce n'est pas contradictoire avec la toute puissance de Dieu. Et il y a un magnifique traité de Bossuet sur le court traité du libre arbitre, enfin, qui est quelques pages où il explique, en réfutant les jésuites qui ont cette position, les molinistes, qui ont cette position qui a l'air d'opposer la toute puissance de Dieu à la liberté de l'homme, qu'y a-t-il de plus absurde de dire que tout le cours de la liberté créée n'est pas, n'existe pas, parce que Dieu veut qu'il soit. Pour un bon moliniste et pour un moderne, il n'y a pas de liberté parce que Dieu veut que je sois libre. Eh bien, ça me met complètement en boule. Peut-être pas vous qui êtes fatigué, mais justement, la source créatrice des choses crée les choses non seulement dans leur substance, mais dans leur modalité. Dieu veut de toute éternité le cours des choses du Big Bang, imaginons que ça avait commencé là, jusqu'au Big Crunch ou au Big Interruption au retour de Jésus, bon. Ça c'est nécessaire, enfin du moins en dehors de l'histoire, hein. La partie physique est bon, elle a une certaine nécessité à mon avis d'un bout à l'autre, bon, et ça se déroule comme ça, parce que l'autre ça se déroule selon la nature des choses naturelles qui sont physiques, qui sont, bon, et Dieu veut de toute éternité que certains esprits créés, qu'on appelle les hommes, fassent un usage de leur libre arbitre, et c'est parce qu'il le veut que nous pouvons être libres. Et donc nous ne comprenons pas comment ça se concilie, d'accord? Mais c'est parce qu'on ne peut pas, tu vois, c'est comme dans la vision stéréoscopique ou la 3D, ou même vous savez que les mathématiciens disent qu'il y a des espaces à X dimensions, bon, qui existent, enfin une réalité mathématique qui rend compte de certaines propriétés physiques, donc qui ont bien un certain type d'existence, mais qu'il est impossible de visualiser au-delà de 3 dimensions. Parce que nous vivons, nous, dans un univers euclidien avec un corps euclidien, à 3 dimensions. Mais on ne va pas dire que ce n'est pas vrai, ça ne marche pas, c'est complètement faux à tout point de vue, parce que je n'arrive pas à l'imaginer. Et en métaphysique, c'est le gros problème, et en théologie, c'est qu'on ne peut pas imaginer cette conciliation entre la toute-puissance divine, qui veut la modalité libre, et la liberté de l'homme. Et ce que Kierkegaard l'a dit une chose juste, c'est la preuve que Dieu est tout-puissant, c'est que je suis libre. Mais évidemment, la conciliation intime est frustrante. Mais il faut pas. Alors pour la souffrance de Dieu, là, il faut dire non, c'est une petite. Quand on dit Dieu souffre, ça veut dire Dieu souffre en Jésus-Christ. Dieu souffre en Jésus-Christ selon la nature humaine. Mais Dieu, dans sa nature divine, n'a pas la souffrance. Bien que ce soit, vous voyez, parce que la théologie moderne, elle est assez pathologique et triparde. Enfin, sous un aspect, enfin, elle n'est pas vraiment comme ça. Ouais. Je suis en train d'échanger avec mes confrères. Il y a un aspect fusionnel, Dieu. Dieu voit un immense ratlocum dégoulinant de gélatine qui ne peut rien faire, aucune coercition. Dieu est bon, Dieu souffre, Dieu est déchiré, etc. Mais non, c'est des anthropomorphismes. Donc il ne faut pas opposer ce Dieu de la raison et ce Dieu. C'est le même Dieu, si vous l'aimez. C'est comme quand on dit par rapport à certaines autres religions, on dit on n'a pas le même Dieu que les musulmans. Alors, c'est vrai en un sens parce que nous savons de Dieu des choses que les musulmans ne savent pas au même ni. Mais quand ils affirment le monde a été créé, il était créé par Allah. Terme qu'en arabe on emploie pour désigner Dieu dans la prière. Ça ne peut pas être autre chose, il faut faire attention. Et je crois que c'est très dangereux, si moi je crois que le fidéisme des modernistes est très dangereux, parce qu'en fait il ne prend pas sur le réel. Pourquoi c'est un échec le modernisme? Pourquoi les gens foutent le camp des églises? Ça c'est faux. C'est faux. Un sac immense, hein. Tout le monde va au ciel, ben, les églises sont vides. Le curé d'art dit attention, gaffe les gars, il y a des gars qui vont en enfer, les églises sont pleines. Pourtant ça emmerde les gens, mais c'est vrai. Donc le vrai est toujours mieux, plus cool que le faux.
Donc Jésus-Christ ne souffrait pas dans sa nature divine?
Non, dans sa nature humaine. Mais comme le suppôt, les actions sont attribuées au suppôt. Jésus-Christ, il n'y a pas deux personnes, il y a une personne divine, il y a la nature humaine qui souffrait, et la nature divine qui ne souffrait pas. Et donc les conciles nous disent, un des trois, c'est-à-dire le deuxième, la trois de la Trinité, a souffert. Dans sa nature humaine. De même qu'on dit, Marie est la mère de Dieu. Parce que c'est une relation qui concerne le suppôt, la personne, et la mère d'une personne, et pas d'une nature, d'une personne, selon la nature humaine. Selon la nature humaine, la mère d'une personne divine. Alors évidemment, on est obligé de jongler un peu, mais c'est des choses très profondes, et qui sont des sources de contemplation. Vous voyez, il ne faut pas faire de la théologie de la métaphysique, comme on fait du supergagne en essayant de trouver des choses propres. Ce qui est souvent le cas des gens un peu malvenus. Oui ?
Les apparitions de miracles, ça peut aider l'homme à croire à la vérité ou à l'existence de Dieu, parce que oui ou non,
oui. C'est pas fait pour ça. Hein. Mais aucun miracle n'est fait pour prouver l'existence de Dieu, parce qu'il la suppose d'une certaine façon. Et si Dieu existe, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à lui, et qu'en est-il de son mystère? Alors on est ouvert, on cherche. Et puis un miracle nous indique la signature de Dieu au bas d'une révélation. Et donc on va vers le catholicisme qui a quelle religion, on croit trouver un miracle. Oui. Et donc, par accident, il arrive que un certain miracle, moi j'en connais, même assez proche de moi, qui ont retrouvé la foi à Lourdes. Mais c'est un peu par accident, quoi. Parce qu'en fait, ils l'avaient déjà quand ils étaient petits, ils l'ont perdu. Et bon, elle revient à cette occasion, mais c'est plutôt la foi que la croyance, en, que l'adhésion à l'existence de Dieu. Alors, par accident, peut-être que l'adhésion à l'existence de Dieu peut revenir par le biais d'un miracle. Le miracle n'est jamais fait pour ça, le miracle est n'est concevable qu'en milieu croyant, et, enfin, comme il n'est pas croyant, qu'en milieu monothéiste. Hein, parce qu'il faut que Dieu soit distinct du monde pour pouvoir faire des miracles dans le monde. Alors, il y a d'autres questions après celle de Thibault. Non, pas d'autres questions. Thibault,
une question.
Ah.
Pour prendre, si je reprends des notions hegeliennes, par exemple, Hegel dit que l'homme ne peut vivre dans le monde qu'en le transformant par le travail, en se l'adaptant, et donc par rationalité à raison, le nier. Est-ce qu'il est possible qu'à un moment, l'homme, ayant totalement nié le monde, pourra vivre dans la contemplation, et justement, à partir de là, le miracle sera nécessaire pour contempler Dieu, même pour l'athée et l'homme qui a totalement nié le monde?
Ben non, alors justement, parce que Hegel se trompe, parce que la négation du monde ne va pas libérer l'homme. Vous voyez, Hegel fait une dialectique entre l'homme et le monde, comme si le monde était une opposition. Alors, dans la perspective vraie, qui est celle de la tradition réaliste, le monde est ami. Le monde et l'homme sont amis. Et l'homme est une partie du monde. L'homme est une nature dans le monde. Et donc, il n'y a pas à se libérer du monde. Il y a à le lire comme un message de quelque chose d'au-dessus. Parce que pour contempler, c'est vrai qu'il faut se libérer du monde, mais il faut se libérer des passions désordonnées dans le monde. Et il faut, à partir du monde, on se libère du monde, si vous voulez, en s'appuyant sur lui. C'est-à-dire qu'à partir du monde, on remonte vers la source du monde, mais on n'évacue pas le monde, bien qu'on puisse l'élaborer, on puisse le travailler. Mais on travaille dans une perspective sapientielle, c'est-à-dire on travaille en croyant qu'on est des instruments de celui qui l'a créé. Parce que pour Hegel, il y a une telle absorption du réel dans la pensée que finalement l'homme devient autocréateur, mais presque divin. Mais c'est vrai que je pense, par exemple, le suaire de Turin, pour moi, est un signe proche du miraculeux. Je ne dirais pas qu'il est complètement miraculeux, on ne sait pas. En tout cas, il est une relique certaine de la passion, qui est un message adressé aux scientifiques du XXIe siècle. Sans aucun doute. Pour moi, c'est tout à fait clair. Parce qu'un scientifique de bonne foi qui étudie ça, ça peut le mettre sur le chemin de la foi.
Thibault, la question pour ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on a la preuve que justement on n'aura pas de preuve expérimentale? Est-ce que par exemple le suaire, les différentes notions de la physique actuelle.
Preuve expérimentale de la foi catholique?
De l'essence de Dieu.
De l'essence de Dieu?
De l'existence de Dieu. Est-ce qu'on
aussi on a une preuve expérimentale, la preuve que je viens d'essayer de
dire? Non, mais une preuve expérimentale au sens que vous
avez. Ah, expérimentale au sens. Ah, bah non, oui, c'est certain, ça c'est la nature même des choses. Parce que si Dieu existe, s'il existe une source de l'être, elle n'est pas saisissable dans les bras de l'être fini. C'est elle. Dieu touche le monde sans être touché par lui. Si Dieu existe, je ne peux pas. C'est lui. Dieu touche le monde, et heureusement, il le fait exister, si vous voulez. Mais sans être touché par lui, c'est qu'il en reçoit en retour, lorsque Dieu crée, il n'en reçoit aucune perfection. C'est nous qui recevons une participation de la perfection divine. Donc si je pouvais faire une preuve expérimentale de Dieu, ça voudrait dire que Dieu serait dans l'ensemble du monde de l'extérieur. Donc il serait à l'intérieur de l'être du Fils. C'est parce qu'il est transcendant, il a une certaine inatteignabilité dans son essence. Et tant mieux, parce que je ne peux pas m'en faire ma chose. Parce qu'on a dit, Marion, etc., et d'autres philosophes chrétiens, ont écrit des bouquins avec Dieu sans l'être, et quand ils écrivaient Dieu, ils barraient parce qu'ils ne voulaient pas mettre le mot Dieu. On dit que penser justement à ces choses-là, c'est faire une idole conceptuelle de Dieu. Et je crois que c'est vraiment nier la divinité naturelle du langage et de la raison humaine. C'est-à-dire nier que la raison et le langage soient donnés à l'homme comme des instruments par Dieu pour remonter vers lui. C'est pas une idole conceptuelle, c'est un instrument d'une infinie délicatesse qui nous plonge dans, et nous met à genoux devant un mystère, si vous voulez, là. Le terme de la théologie naturelle, c'est se mettre à genoux en disant c'est beau et si ça pouvait être vrai, le catholicisme, par exemple, je ne sais pas. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui nous amène au-delà de nous-mêmes, c'est ça qui est merveilleux. C'est que dans l'expérience, vous retombez à l'intérieur du cosmos. Vous retombez dans l'expérimental, sous une autre forme. On en discute pour les trous noirs, mais je ne dirais pas ça. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on perd l'information absorbée par les trous noirs, ou est-ce qu'il y a moyen de la récupérer? Mais donc s'il y avait Dieu, c'est le trou noir absolu. Enfin, c'est le trou, c'est pas le trou, c'est le jaillissement blanc infini. Il est complètement éblouissant. Donc si j'étais pas totalement éblouissant, ça voudrait dire qu'il est qui m'est soumis, quoi. C'est moi qui suis soumis à ces rayons, qui suis influencé par ces rayons, et qui devine qu'il existe. Si vous voulez, c'est comme un quelqu'un qui s'approche d'une maison, c'est de plus en plus chaud, c'est l'exemple pris par Saint Thomas quelque part, il dit, ben, il y a un feu quelque part dans la maison. Mais je le vois pas. Ça agite, ça ajoute au piment. Oui ? D'autres questions ?